Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver ce matin en ce jeudi 26 février. Écoutez, aujourd'hui nous aurons une matinale assez intéressante, je le pense, avec tout d'abord en ouverture François Bousquet qui nous parlera de la rediabolisation des patriotes et de la manière dont le RN a géré l'affaire Quentin. Autre sujet, à 7h25 avec Arnaud Stéphan, spécialiste de communication, qui parlera de comment combattre le contre-récit de la gauche. À 8h20, nous évoquerons le sujet de l'euthanasie, alors que le texte est passé hier à l'Assemblée nationale, qui a été approuvé donc par une majorité de députés. Et puis à 8h57, comme tous les jeudis, ce sera l'analyse de Jean Messia. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, chers auditeurs. Je suis avec Arnaud à la technique. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Et je suis avec Magda qui va tout de suite nous faire un petit point sur l'actualité.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Hier, une enquête a été ouverte à Paris pour soupçon de reconstitution du groupuscule ultra-violent de Raphaël Arnaud, la jeune garde antifasciste, dissoute en juin dernier. Après le signalement du ministère de l'Intérieur, le parquet poursuit pour maintien ou reconstitution de groupements dissous, un délit passible de lourdes sanctions si on les croit. Un soupçon de reconstitution de ligue dissoute dont seul l'État semble étonné. Et il faut visiblement attendre la mort d'un militant nationaliste pour que l'exécutif se penche sur la question. Au risque d'en surprendre certains, on dissout des mouvements, mais pas les idées ni les hommes qui les pensent. Autrement dit, pour l'endiguer, il s'agirait peut-être de l'interdire, surtout après un tel drame, au sein duquel, on le rappelle, la jeune garde est impliquée. Avis à LFI qui collabore directement avec. À ce propos, Alexandre Dupalet, candidat RN-UDR à la mairie de Lyon, dénonçait à notre antenne le rassemblement mélenchoniste qui se tient aujourd'hui dans sa ville. Écoutons-le.
Quand on a affaire à une secte, puisque LFI est une secte désormais avec un gourou, qui est Monsieur Mélenchon, une secte qui d'autant plus appelle à la violence politique, une secte qui a tué dans les rues de Lyon, en assassinant, en lynchant un jeune homme de 23 ans, et que cette secte ne se remet absolument pas en cause. Il n'y a pas eu une seule réaction de LFI pour dire « nous avons commis une faute absolue en laissant Raphaël Arnaud siéger à nos côtés, nous avons commis une faute absolue en laissant une milice s'installer dans nos rangs, en faisant notre service d'ordre ». Non, il n'y a eu aucune réaction. Au contraire, c'est du victim shaming, comme disent les anglo-saxons. C'est de justifier la mort de Quentin et c'est de justifier l'existence de la jeune garde. Donc désormais, LFI assume pleinement d'être elle-même une organisation qui recourt à la violence et de miser sur le fait de terroriser ses adversaires. Je pense que la dissolution même de LFI se pose à partir du moment où il ne se détache pas de cette violence politique. Je crois que jeudi, demain, Monsieur Mélenchon est attendu à Lyon pour un meeting. Je trouve que c'est d'une indécence absolue. Et j'appelle la préfecture et le ministre de l'Intérieur, bien sûr, à interdire ce rassemblement de la honte, puisqu'on ne peut pas avoir le chef de la meute qui vienne à Lyon cracher sur la tombe de Quentin quelques jours seulement après son décès.
C'était Alexandre Dupalet hier sur Ligne Droite.
Voilà, et puis la fréquentation du Salon de l'Agriculture 2026 est en nette baisse.
Et oui, cette année, le Salon de la France Rurale compte environ 25% de visiteurs en moins sur les premiers jours, notamment à cause de l'absence de bovins liés aux mesures sanitaires autour de la dermatose. Or, pour beaucoup de visiteurs, notamment les familles, ce sont justement les vaches qui font toute l'attractivité du salon. Si certains producteurs maintiennent leurs chiffres d'affaires, beaucoup se plaignent de craindre de voir ramener chez eux jusqu'à 90% de leur stock. On souhaite aux éleveurs une hausse de la fréquentation d'ici dimanche. En tout cas, nous serons sur place vendredi pour vous y réaliser un reportage avec notamment Thierry Mariani, candidat RN à la mairie de Paris.
Et bien, c'est une bonne nouvelle. Et alors, on continue de marcher sur la tête avec l'euthanasie.
Et oui, c'est encore un nouveau cap franchi vers l'égalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. La proposition de loi sur l'aide à mourir a été adoptée hier une seconde fois à l'Assemblée nationale avec 299 voix. pour et 226 contre, une majorité toutefois moins large qu'en 2025. Si l'extension des soins palliatifs a été votée à l'unanimité, la légalisation de l'aide à mourir, portée de longue date par le plein de bon sens Emmanuel Macron, continue heureusement de diviser, à droite majoritairement et même un peu à gauche. Dans le même climat tendu, 38 militants pro-vie opposés au texte ont été interpellés mardi soir devant l'Assemblée lors d'un rassemblement non déclaré. Deux organisateurs présumés ont été placés en garde à vue. Forts avec les faibles et faibles avec les forts, l'État et la police continuent de priver de leur liberté ceux qui ne banalisent pas une décision irréversible telle que la mort. Ça vous paraît fou? Eh bien, en Macronie, c'est la normalité.
Eh bien, merci pour cette. Merci la Macronie, quelque part. Et donc, vous avez des nouvelles de l'Iran?
Et du côté Washington a annoncé une nouvelle série de sanctions économiques contre l'Iran. Ces mesures visent notamment des entités et des réseaux accusés de soutenir le programme nucléaire iranien et les activités régionales de Téhéran. Les États-Unis renforcent ainsi la pression financière déjà importante sur l'économie iranienne. Cette annonce intervient alors que Donald Trump a prononcé un discours sur l'état de l'Union particulièrement long, présenté comme l'un des plus étendus de l'histoire récente devant le Congrès. Le président américain y a défendu sa politique économique, revendiqué une ligne ferme sur l'immigration et assumé un durcissement diplomatique face à l'Iran. Sur le plan intérieur, il a mis en avant la croissance et l'emploi et sur le plan international, une pression sur l'Iran et une affirmation de la puissance. Reste à voir si cette stratégie de sanctions renforcées permettra réellement de faire plier le régime iranien ou si elle accentuera davantage les tensions régionales.
Et pour ce qui est du sport?
Eh bien, du côté de la Ligue des Champions, oui, je parle de foot, Alexandre, le PSG s'est qualifié hier pour les huitièmes de finale face à Monaco, qui s'est remarquablement bien défendu, puisque le match s'est terminé à 2-2.
Très bien, et bien pour ce qui est du temps maintenant.
Et bien aujourd'hui, la douceur est toujours présente partout en France, avec encore quelques nuages sur le pourtour méditerranéen et un ciel qui se charge lentement sur un large quart nord-ouest. Côté température, nous attendons pour les maximales de 12 à 22 degrés du nord au sud, avec notamment 12 à Cherbourg, 18 à Paris et jusqu'à 22 degrés à Biarritz. Et nous célébrons ce 26 février Saint Porphyre et Saint Nestor, qui en 250 était un évêque en actuelle Turquie et qui, sous la persécution de Dès, s'est fait crucifier et a converti plusieurs païens et sauvé beaucoup de catholiques.
Eh bien, bravo à lui. Merci, Magda.
Ligne droite.
Mais vous ne partez pas loin étant donné que maintenant vous décryptez.
Ah oui, chers auditeurs, je vais vous parler aujourd'hui de Seb, le groupe français derrière des marques comme Tefal, Moulinex, etc. qui annonce jusqu'à 2100 suppressions de postes dans le monde, dont environ 500 en France. Alors à première vue, on pourrait croire à une entreprise en difficulté, mais ce n'est pas le cas. Seb reste un groupe solide, rentable, qui emploie environ 40 000 personnes à l'échelle mondiale et réalise une grande partie de son chiffre d'affaires à l'international. Alors pourquoi supprimer autant de postes? Eh bien d'abord, la première explication tient au marché, parce que en effet, le secteur du petit électroménager a connu une période exceptionnelle pendant le Covid. Les ménages confinés chez eux ont investi dans des équipements, des robots de cuisine, des machines à café, des air fryers, enfin bref, les ventes ont explosé. Mais cette phase est terminée. Aujourd'hui, la demande ralentit nettement. Les ménages consomment moins, notamment en Europe. Le contexte économique est plus tendu. L'inflation, le pouvoir d'achat contraint, la prudence dans les dépenses. Résultat, les volumes baissent. Face à cela, Seb ajuste sa structure de coûts. Les 2100 suppressions de postes représentent environ 5% des effectifs mondiaux. En France, les 500 emplois concernés touchent différentes fonctions industrielles et administratives. Le groupe évoque des départs naturels non remplacés et des réorganisations. Alors le deuxième élément important, c'est le levier financier. C'est un indicateur qui mesure le niveau de dette par rapport à la capacité de l'entreprise à générer des profits. Seb annonce vouloir le réduire en 2026. Autrement dit, le groupe cherche à diminuer son endettement pour renforcer sa solidité financière. C'est une stratégie de prudence. L'entreprise préfère se préparer à un environnement incertain plutôt que subir une dégradation brutale. Ce qui est intéressant, c'est que Seb n'est pas un acteur fragile. C'est un groupe industriel historique, fortement implanté en France, avec un savoir-faire qui est reconnu. Ce n'est pas une société en crise et pourtant, même un groupe de cette taille considère qu'il doit réduire ses effectifs pour rester compétitif. Cela en dit long sur le climat économique actuel. On est dans une phase de ralentissement, la consommation n'est plus dynamique. Les entreprises anticipent des marges plus serrées, elles privilégient la solidité financière à l'expansion. SEB continue d'investir, d'innover, de se développer à l'international, mais la priorité est à l'équilibre, à la maîtrise des coûts et à la réduction de la dette. Pour les 500 salariés concernés en France, cela reste une réalité, des postes supprimés. Pour l'économie française, c'est un signal qui est très alarmant, car quand un groupe industriel rentable adopte une stratégie défensive, cela signifie que l'environnement économique est incertain. Alors SEB ne s'effondre pas, mais SEB se protège.
Merci beaucoup, Magda.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir François Bousquet. François Bousquet, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, vous êtes directeur aussi de la nouvelle librairie. Et si nous voulions vous inviter aujourd'hui, c'est parce que vous avez été l'auteur d'un article particulièrement, au titre disons particulièrement provocateur, disons, que je vais donner aux auditeurs. ORN, vaut-il mieux participer à une soirée chemsex qu'à un hommage à Quentin? Et puis, en fait, c'est cette question qui se pose de la rediabolisation. Selon vous, l'ERN, on a l'impression, en tout cas, irait trop loin dans sa stratégie de dédiabolisation au point de trahir, finalement, son camp historique.
Oui, puis de lâcher en race campagne ses militants. Moi-même étant plus soldat politique du reste que militant, ma hantise, c'est de me retourner sous la mitraille et de voir que mon chef s'est volatilisé. Et ça arrive trop souvent, le RN a débranché des candidats à Carpentras, quels que soient les tweets ou que sais-je qu'ils ont pu publier, des candidats à Belfort, là pour le coup pour des remarques anodines, hein. À Belfort c'est un candidat qui avait été investi par le Rassemblement National et qui faisait état sur les listes des naissances hein, d'une surreprésentation de patronymes et de prénoms à consonance étrangère. Mmh. Il a été débranché dans la foulée. Et le dernier en date, c'est Vincent Claudin. Alors j'ai écrit cette tribune, ce billet d'humeur, c'est un billet d'humeur, hein, parce qu'il m'a semblé que c'était la goutte d'eau, disons, la façon dont Vincent Claudin a été débranché. J'ai fait ma tribune avant de voir l'article de Mediapart qui lui était consacré, où Mediapart a ressorti un certain nombre de tweets de ce garçon, encore que Mediapart n'est pas mesure de le prouver, puisque à ce stade, hein, même si Barrot veut mettre au pas les réseaux sociaux, à ce stade, les réseaux sociaux sont anonymes. Hein, donc il est absolument impossible. Et à ma connaissance, Twitter, enfin X, hein, ne met pas à la disposition des autorités françaises ses fichiers de création de compte. Hein. Bon, on n'a pas interrogé Vincent Claudin, l'ami de Quentin sur les tweets. Est-ce que c'est lui qui les a écrits? Bon, on peut présumer que c'est lui, puisque c'est le RN après la décision. Mais peu importe, à la limite, c'est pas le plus important. L'important, c'est la stratégie qui est celle du RN depuis quelques années, qui est celle de la dédiabolisation, qui a porté ses fruits, assurément. C'est un parti qui s'est partiellement institutionnalisé, nonobstant le cordon sanitaire lors des dernières législatives, qui a quand même rappelé qu'il y avait des fondamentaux à gauche. À gauche, c'est pas d'ennemis à gauche. Au centre, c'est pas d'ennemis au centre et à gauche. Hein. Le RN s'est retrouvé cornérisé. Mais bon, néanmoins, cette stratégie de la cravate a pu porter ses fruits et donner un petit peu de crédibilité. Moi, plus que la diabolisation, c'est la question de la crédibilité qui me semble centrale pour le Rassemblement. Alors tous ces éléments de langage, tous ces éléments de communication, la cravate, etc., ont porté leurs fruits. Mais désormais, me semble-t-il, hein, le RN est dans une stratégie de connivence et non plus de rupture. Hein. Or, si je m'en tiens aux élections de Trump et d'autres, hein, du reste, ce sont plutôt des stratégies de rupture qui ont été les plus fécondes hein, pour porter au pouvoir nos idées au sens le plus large possible.
Hein. Mais François Bousquet, en l'occurrence, ce qu'on observe aussi, c'est que la progression du Rassemblement national, ces 20 dernières années, elle s'est surtout faite, ces 15 dernières années, elle s'est surtout faite par une forme de dédiabolisation, donc par le fait justement de s'éloigner de la radicalité qui était autrefois incarnée par Jean-Marie Le Pen. Et on a l'impression que vous rejoignez un petit peu la ligne de Jean-Yves Le Gallou, qui est une ligne pour le coup très militante, on va dire, mais dont les fruits électoraux, en tout cas, n'ont pas encore été prouvés pour le moment.
Non, allons plus loin même. Hein. Les fruits électoraux ont été prouvés. Cette ligne a vocation à échouer si elle est portée de comme par Jean-Yves ou par moi, par définition. Le RN doit être dans une autre perspective. Ce que fait valoir Jean-Yves Le Gallou, c'est qu'un parti sans militants, et c'est un parti qui est en train de se vider de ses militants, on pourra communiquer, le RN pourra communiquer autant qu'il le voudra hein, sur le nombre de gens qui sont adhérents du parti. Ce que pointe Jean-Yves, c'est qu'il faut des militants, des gens qui collent des affiches, hein, des gens qui fassent la sécurité. Il faut des scrutateurs, comme le rappelle en permanence Jean-Yves Le Gallou, il faut des scrutateurs dans les bureaux de vote, hein, c'est-à-dire des gens qui passent leur journée du dimanche hein, à s'assurer qu'il n'y a pas de triche de la part du camp adverse. Hein. Mmh. Est-ce que le RN peut faire l'économie de ça ? Non. Je conteste pas encore que la normalisation me semble aller un peu trop loin, mais je suis pas au RN, simplement un parti ne peut pas accéder au pouvoir sans une base militante, ça n'est pas possible. C'est de même qu'il ne peut pas accéder au pouvoir sans s'allier avec d'autres partis politiques. Hein. Donc moi je pointe simplement à me semble-t-il, un angle mort du RN qui a tendance hein, à purger et à ne purger qu'une seule ligne, hein, qui est la ligne identitaire. Hein. Et également la ligne catholique. Hein. Je suis surpris que Sébastien Chenu, d'où le titre choisi pour cette tribune, ce billet d'humeur ou de mauvaise humeur, je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas eu de sanctions auprès de Sébastien Chenu, mais le personnage est trop important au sein de l'état-major du RN pour qu'il y en ait, quand il a fait ce lapsus qu'il a abusé quoi, sur les soirées chemsex. Hein. Je ne veux pas être représenté par des gens qui vont dans les soirées chemsex. Hein. Je ne veux pas, c'est du Suétone, hein. C'est les 12 Césars. Hein. Donc je suis surpris que lorsque, c'est le billet était là-dessus, je suis surpris par le deux poids deux mesures, par la géométrie variable des sanctions au sein du RN. Je constate qu'un tweet identitaire vaut, en tout cas, pour le tweet anodin, je le redis à Belfort, le tweet est anodin, c'est anodin. Robert a fait ça dans sa ville, hein. Il a compté sur les listes des naissances, le nom n'est pas trop. C'est ce que fait Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet le fait, c'est ce que fait l'INSEE quand il décompte les prénoms musulmans. À la suite de quoi il a été exclu du parti. Et à côté de ça, je suis surpris par l'extraordinaire indulgence dont fait preuve ce parti pour des soirées chemsex.
Et alors, même, essayons d'aller plus loin justement, mais est-ce que selon vous, le fait de... on a l'impression qu'il y a quand même un traumatisme de la brebis galeuse quelque part. C'est-à-dire que ces personnages qui pourraient être révélés qui pourraient sortir dans la presse par Mediapart, le canard enchaîné et autres, et finalement ne pas réussir, enfin en fait, devenir des handicaps dans le sens où on peut utiliser ces cas particuliers pour dire ah oui, regardez, le RN est nazi, il a investi tel candidat à tel endroit, etc. Est-ce que dans le fond, il vaut pas mieux purger justement pour parvenir à avoir. À avoir une ligne claire et justement crédible.
Dans tous les cas, le RN sera renvoyé au pavillon des cancéreux. Mmh. Dans tous les cas. À son assignation première, qui est le nazisme, qui est le fascisme, qui est l'extrême droite. Hein. Mmh. Dans tous les cas de figure, dans toutes les configurations, le RN sera extrême droitisé. Il me semble que tous ces épiphénomènes, sortis par les équipes de Libération, de Mediapart ou de l'Humanité, qui ont des journalistes dévolus à enquêter sur les fils de Twitter ou Facebook ou autres, hein, des candidats RN. Ils font ça toute la journée. Ils les montent en épingle, avec un effet loupe. Hein. C'est résiduel, c'est marginal. Je pense que ça n'a aucun impact sur les gens qui votent le RN, hein, qui votent pour le RN. Hein. Donc tout ça, ça concerne un micro-milieu, un tout petit milieu. Je rappelle que tous ces journaux, exception faite de Mediapart, mais pour l'Humanité et pour Libération, je le redis, qui ont des équipes dévolues à l'étude des candidats RN, sur lesquels ils enquêtent le matin
aussi. Aussi oui.
Ce sont des journaux structurellement déficitaires, qui ne sont pas lus. Ils ne sont lus, semble-t-il, c'est ce que dit Jean-Yves, hein, que par le RN. Hein. Ce qui fait dire à Jean-Yves Le Gallou que le DRH désormais du RN, hein, c'est Libération. C'est tout. Je ne crois pas que le RN sera handicapé par quelques brebis galeuses. Hein. En revanche, moi, je pense que le RN sera handicapé par le lissage de tous ces candidats. On n'aura plus que des hologrammes. Hein. À ce stade. Est-ce que le RN veut des hologrammes ? Dans le papier, je pointe vous évoquez ce symptôme de la brebis galeuse, mais il y a également celui du bouton de panurge. Hein. C'est qu'après, on n'a plus que des brebis bêlantes, hein, qui sont alignées sur un discours qui est tout à fait lisse. Hein. Et il ne me semble pas que l'opinion attende ce type de discours consensuel. J'ai le sentiment que l'opinion est plutôt dans une perspective de discours disruptif, hein. que le RN devrait assumer. Voilà, simplement, je ne suis pas, je veux pas rentrer, moi je fais un billet d'humeur, hein,
oui.
Sur une affaire qui me semble microscopique, hein, eu égard à la mort de Quentin et à la violence du camp d'en face.
Hein. Bien sûr. Dans 5 minutes, chers auditeurs, nous recevrons Arnaud, Stéphane, je le rappelle, pour parler voilà, du contre-récit de la gauche. Mais François Bousquet, une autre question qui se pose aussi sur ce sujet, c'est quand même, est-ce qu'il est possible que ce lissage excessif des candidats et de la ligne du Rassemblement National puisse mener à une forme de perte des voix, par exemple des catholiques, ou alors peut-être des identitaires, ou alors est-ce que ça risque pas finalement de renforcer à la droite du RN un Éric Zemmour ou une Sarah Knafo?
Oui, c'est possible. Hein. Alors, c'est un risque que le RN hein, a anticipé, hein. C'est, puisque Éric Zemmour fait 7% et Marine Le Pen passe au deuxième tour, hein, pas haut la main. Hein. Je veux dire, les marges de Marine Le Pen par rapport à Mélenchon sont assez faibles, hein, avec les 7%. Alors, quand je dis qu'il l'a anticipé, bah, c'est l'alliance UDR, c'est l'alliance avec Ciotti. Entre autres, hein, Ciotti est là pour... essayer de capitaliser sur des voix libérales, catholiques, conservatrices, hein, pourquoi pas identitaires, hein, que le RN, sur lesquelles le RN ne pourrait pas capitaliser parce qu'il reste sur sa ligne sociale à laquelle j'adhère, hein, puisque je me semble indispensable. Hein. La nature politique a horreur du vide. Hein. On le voit en Angleterre, les Brexiteurs sont débordés par leur droite. Hein. Il est possible qu'en France émerge une candidature à la droite du RN hein, et qui capitalisera précisément sur le mécontentement et la frustration d'électeurs qui ne se sentent plus représentés, en tout cas qui ne sentent plus leur ligne identitaire représentée. C'est un scénario qui est possible, mais j'imagine qu'au RN, on en a conscience. Hein.
Et on a l'impression que, justement, il y a cette... je ne sais plus qui écrivait que... je me demande si c'est pas François Fillon qui disait que le risque pour Jordan Bardella, c'est la chiracisation. Est-ce que vous aussi, vous partagez cette analyse? Est-ce que vous dites que finalement, si on comprend bien, quoi que le RN fasse, il sera toujours renvoyé à un parti fondé par les Waffen-SS, et qu'au fond, avoir une image propre, nette, ça n'a pas tellement d'intérêt?
Oui, alors je l'ai dit au préalable, hein, dans tous les cas de figure, le RN, c'est une assignation diabolique. Hein, c'est des mécanismes de causalité diabolique. À la fin des fins, le RN sera en permanence hein, renvoyé à ce que j'appelle, après Solzhenitsyn, le pavillon des cancéreux. Il n'y a aucune chance qu'il n'en sorte. Hein. Donc je crois qu'il faut l'assumer. En sociologie, ça s'appelle le renversement des stigmates. Hein. Donc on assume les stigmates que nous portons et on en fait une force contre-offensive. Hein. Je suis pas d'accord avec l'idée que le RN se chiraquise. Je vois rien de chiraquien dans le programme du RN. Il me semble que sur la question migratoire, on est aux antipodes, hein, ou les questions sécuritaires, aux antipodes de Jacques Chirac. Hein. Mmh. Ce que je pointe, hein, moi, c'est ce que je pointe. Après, c'est pas mes affaires. Hein. Je suis pas candidat RN. Hein. Ce que je pointe, c'est le risque de lissage. Voilà, mmh. C'est tout. Le parti, le Front National de Jean-Marie Le Pen, hein, était un parti, alors certes, il plafonnait à 15-17%, mais où il y avait quantité de profils hors normes, des originaux, etc., avec qui vous faites de la politique. Hein. Mmh. Si à la fin des fins, il n'y a que des hologrammes, hein, si à la fin des fins, il n'y a que des boutons de panurge, hein, on n'ira pas, on sera voué à être déçu. Et l'autre point que je pointe, hein, le RN est censé défendre les Français, et en tout cas les Français qui sont en première ligne. Hein. Et quand il y a un lâchage, quand il y a non seulement un lynchage des militants, Quentin, mais quand il y a un lâchage clément, comme il y a eu hier, hein, sans jouer sur les mots, bah je m'inquiète. Hein, ce parti qui est censé me défendre, va-t-il me défendre au bout, quoi?
Eh bien écoutez, espérons que... Enfin, la question se pose en tout cas, effectivement, est-ce que le RN est capable de faire ça jusqu'au bout? On n'a même pas abordé, pardon, le sujet de reconquête qu'on aurait pu traiter... François Bousquet sur cette affaire aussi, mais merci beaucoup d'avoir été présent avec nous ce matin pour cette analyse et on vous dit à bientôt.
7h-10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, il est 7h24. Je rappelle que à 8h20, nous recevrons donc pour Grégoire Pupinck pour évoquer le sujet de l'euthanasie. Mais tout de suite, eh bien, je retrouve Arnaud Stéphane pour parler de l'affaire Quentin, toujours.
Ligne à droite. Le grand entretien.
Arnaud Stéphane, bonjour. Alors, vous êtes fondateur de l'agence La Note de Com, ancien conseiller en communication de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal et Marine Le Pen. Voilà, beau CV. Et aujourd'hui, en fait, si on vous invite, c'est pour essayer de comprendre un petit peu comment la gauche installe son contre-récit et finalement, pourquoi est-ce que on a l'impression que la droite perd pied sur une affaire qui, je vais dire, accuse directement la gauche est presque directement un parti politique. Première question, tout simplement, ça fait depuis la mort de Quentin, depuis deux jours après la mort de Quentin plutôt, que la gauche installe un contre-récit qui vise à dire, dans le fond, tout ce qui est arrivé à Quentin n'est pas si grave, parce que, un, Quentin était fasciste, nazi, et donc sa mort a peu d'importance, et deux, dans le fond, l'extrême droite reste plus dangereuse que l'extrême gauche.
D'abord, ils ont fait quelque chose de très important à mes yeux, c'est qu'ils ont fait de la communication de crise. À savoir qu'ils ont pris l'impact de ce qui venait de se passer, de la mort de Quentin, et des accusations qui ont été immédiatement portées à l'encontre de militants, de la responsabilité de la Jeune Garde, des liens de la Jeune Garde avec la France Insoumise. Et ils ont laissé passer les 24-48 premières heures pour voir à peu près quel était l'état du terrain, quelles étaient les forces en présence et quelles étaient les attaques qui leur étaient adressées. La deuxième chose, c'est que, une fois de plus, ils ont constaté, en faisant de la communication de crise, qu'ils avaient une sorte de responsabilité. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On délocalise la responsabilité, on essaye de la fondre dans une responsabilité globale. Il y a eu la mort de quelqu'un, c'est affreux. D'abord, ils disent pas affreux, d'ailleurs, ils disent j'en sais rien, ils nient. Puis après, ils disent que c'est affreux, parce qu'ils voient bien qu'il y a une émotion. Donc, on répond à une émotion en essayant d'être raisonnable. Donc, on répond à cette émotion. Oui, c'est affreux, personne ne devrait mourir. Et la troisième phase, c'est ils essayent de sauver leur responsabilité. Non pas la responsabilité de Monsieur Arnaud, parce que ça, ils s'en moquent complètement, ils le lâcheront au moment où il faudra le lâcher, c'est qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas seulement la Jeune Garde qui est attaquée dans cette histoire, mais la responsabilité du discours de la France Insoumise. Mmh. Et le discours de la France Insoumise, ça touche au chef, à Mélenchon. Et à partir de là, on change de braquet. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une justification des actions de la Jeune Garde, on est dans tous autour du chef, pour essayer de sauver l'image du chef, et de sauver l'image du candidat à l'élection présidentielle pour 2027. Donc il y a un glissement au fur et à mesure qui est passionnant à regarder, et puis vous avez immédiatement les petites mains dans les médias qui sont souvent issus d'écoles de journalisme où ils ont été très bien formés par des professeurs issus beaucoup de la France Insoumise ou de la gauche en général, de sociologues, etc. Et il y a l'armée de réserve de la France Insoumise qui se met en marche, celle qui est très introduite dans les médias, les petites mains, celles qui vont faire les invitations sur les plateaux. C'est celles-là qui sont redoutables. C'est pas forcément les chefs de service, les rédacteurs en chef. Faut pas penser qu'il y a une espèce de complot permanent dans les médias. Il y a ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le choix des invités ou la proposition des invités. Si on vous dit, tiens, j'aimerais bien avoir tel sociologue, plutôt centriste ou de droite, et puis les personnes qui s'occupent des invités vous disent, ah ben non, il n'est pas disponible. Oui. En revanche, On a un professeur à Paris 8 qui est très très bien, puisqu'en plus je le connais, ça a été mon professeur et mon chef de section, et mon chef de ça, pardon, je voulais passer ce que je voulais dire. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des plateaux qui sont complètement délirants. Mmh. C'est-à-dire avec des plateaux, et ça a été le cas notamment, alors là c'est encore différent, sur des émissions comme C'est Politique, oui, et des choses comme ça, où vous avez, à part Monsieur Sugy du Figaro, vous avez la totalité des sociologues qui ont participé à des universités d'été, oui, à la France Insoumise, en compagnie de Monsieur Arnaud de la Jeune Garde. Oui. Donc c'est complètement délirant. Vous avez des gens qui sont à la fois jugés partis. Vous avez des études qui correspondent à rien. On l'a bien vu. Je pense qu'on va en parler aussi de ces études sur 90% des crimes politiques sont des crimes d'extrême droite, etc. Sauf que cette information, elle infuse. Et comme il n'y a quasiment pas de contrepartie. Oui. Vous avez pour un sujet sur le plateau, vous avez 10 professeurs à cheveux rouges hirsutes de Paris 8. Et donc, à ce moment-là, votre discours est très difficile à tenir. Après, vous avez les réseaux sociaux pour la reprise, mais vous touchez sur les réseaux sociaux un public qui est déjà, c'est votre fanbase. Vous touchez complètement les gens qui sont déjà convaincus et peu le grand public. Or, c'est le grand public qu'il faut essayer de convaincre. Et ça. Ça a été la grande force, et on le voit encore, de la France insoumise, c'est-à-dire d'être capable de très vite, une fois ayant les informations en main, de saturer l'information. Ils vont saturer l'information extrêmement vite, ils vont saturer les médias, ils vont saturer d'invités qui leur sont complètement acquis.
Et on a l'impression qu'en plus de cette saturation, parce qu'ils sont présents sur BFM TV, ils sont présents même bien sûr. CNews, ils sont présents sur LCI. Alors,
par expérience, BFM TV, c'est les pires en fait.
Oui.
Moi, j'ai fait un an sur BFM TV. Je voyais la composition des plateaux et je voyais quels étaient les gens qui faisaient les plateaux. Aujourd'hui, les gens, il y en a un, il est très sympathique d'ailleurs, donc ça, je m'en veux un peu de dire ça, mais je suis très pas son nom. Il s'occupait de la cellule, une des personnes qui s'occupait de la cellule invitée sur BFM, m'avait dit, oh là là, vous avez été extrêmement dur avec Monsieur Lecoeur, visiblement il le connaissait bien, Erwan Lecoeur, et je lui dis pourquoi, il avait pas l'air très choqué que Erwan Lecoeur ait été permanent de la France Insoumise, membre du cabinet du maire de Grenoble, pour parler d'un sujet dans lequel il est jugé parti. Et puis aujourd'hui, il est dans une célèbre émission d'investigation sur France Télévisions dont on sait qu'elle a quelques biais.
Quelle surprise. Mais alors oui, effectivement, il y a cette suroccupation avec ses petites mains, mais d'un autre côté, même dans le discours est devenu beaucoup plus offensif du côté de LFI quand même. On va parler un petit peu après de cette question des fameux 90% de morts de l'extrême droite, mais avant ça, on voit quand même que même Jean-Luc Mélenchon maintenant va appeler à la dissolution de Némésis, va complètement finalement renverser l'accusation en expliquant que c'est Némésis qui agresse la France insoumise, et de manière générale, on les voit maintenant sauter sur cette manifestation de Lyon en expliquant « Ah bah oui, regardez, il y avait des néo-nazis qui sont dans les rues, maintenant c'est ça le danger. »
Oui, oui, mais c'est encore rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Mmh. C'est que pendant longtemps, c'était une partie de la presse avec des gens qui eux-mêmes avaient des passés politiques. Mmh. Vous avez des anciens directeurs de l'information qui ont été nommés sur liste du Parti communiste à l'époque où François Mitterrand était arrivé au pouvoir. Ces gens-là sont restés pendant 25 ans dans les médias. Donc vous aviez des adversaires de la cause nationale ou de la droite tout court avec des positions extrêmement forte au sein des médias. Puis il y a eu la privatisation des médias, mais ça n'a pas changé grand-chose en vérité, la privatisation des médias. Parce que le substrat sociologique et d'où viennent ces gens qui sont en responsabilité dans ces médias même privés ou d'information en continu, il suffit de regarder là où ils ont été, là où ils ont été formés. Vous avez l'école de journalisme de Lille, qui fournit énormément de journalistes et de jeunes dans les rédactions. Et pour nos auditeurs, je vais juste vous donner un petit détail, c'est que monsieur Émeric Caron était professeur dans cette école. Donc c'est pour vous donner quand même le substrat idéologique.
Et puis même Sciences Po Paris n'a pas changé beaucoup de sociologie depuis 30 ans, 40 ans. Quoi,
bien sûr, bien sûr. Et vous avez et là encore une fois la force. C'est que des gens de la France insoumise assument complètement, parce qu'ils ont compris quelque chose, c'est que ce qui était déterminant pour eux, c'était de rassembler leur camp en vue du premier tour. Mmh. D'abord les municipales, où ils vont mettre une pression terrible sur le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, vous avez remarqué, est relativement discret. Mmh. En tout cas, il y a un certain nombre de personnalités du Parti Socialiste qu'on n'entend plus du tout. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils savent bien qu'ils sont tombés dans un piège mortel au moment des législatives anticipées. parce qu'ils ont eu un très bon accord, hein, avec 120 circonscriptions. Ils ont réussi à se faire élire dans une soixantaine. Sauf que ces circonscriptions, il y en a une grande partie qui sont complètement à la main de la France Insoumise. La France Insoumise a fait exprès de leur donner, de leur accorder un accord plutôt favorable, mais en vérité c'était un accord qui tenait le Parti Socialiste. Donc voilà, il y a les municipales, le Parti Socialiste a véritablement besoin, et ça a été très bien dit par le camarade Bousquet, il dit un parti ça a besoin d'avoir des militants. Mais le Parti Socialiste n'a plus de militants.
Mais non.
Qu'est-ce qu'il y a des militants? C'est la France Insoumise. On verra comment ça se passe à Marseille. On verra comment ça se passe dans de grandes villes, où M. Doucet, d'ailleurs, à Lyon, alors même que c'est là où Quentin a été tué, commence à dire « Oui, bon, bah, au deuxième tour, on verra, il y aura peut-être des accords, il faudra qu'ils disent qu'ils sont contre la violence. » Mais qui va dire qu'il est pour la violence? Personne, évidemment. C'était juste un prétexte. Et on verra comment ça se passe. Et je le dis, j'ai la chance d'être sur des médias d'information nationaux, je le dis, je le répète, on verra au soir du premier tour les changements de veste, les retournements d'attitude morale, parce qu'ils ont besoin d'avoir le soutien des LFI, parce que c'est la puissance militante, c'est la puissance financière, c'est même quasiment la puissance idéologique. Je veux dire, il n'y a rien idéologiquement qui sort du Parti Socialiste aujourd'hui. Même des Verts, ils sont complètement à la remorque. Donc, il y a cette puissance centrale de la France Insoumise. Est-ce qu'elle est fragile? Est-ce qu'on est obligé de faire avec la France Insoumise? Pour l'instant, on est un peu obligé de faire avec la France Insoumise.
Oui, et puis même ceux qui essayent de passer à côté avec cette primaire de la gauche, ça a l'air quand même un petit peu bancal affaire.
Vous avez la primaire de la gauche à laquelle refuse de participer un candidat qui s'est retrouvé à 2% du second tour à deux reprises. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir, c'est très gentil, Madame Tondelier et ses amis, de se réunir, mais enfin, à part d'être dans une cabine téléphonique, ils font pas grand-chose. C'est pas encore une fois, il faut peser. Et il faut peser sur la représentation de ce qu'est un parti politique. Parti politique, c'est un endroit de sociabilité.
Alors, revenons justement à ce qu'est. Est-ce qu'il y a un parti politique pour parler donc du Rassemblement National de l'autre côté? Le Rassemblement National, lui, on a du mal à le lire en fait dans cette séquence. On a l'impression que il est dans le contrôle des dégâts permanents pour surtout pas prendre de risques sur une telle affaire où on l'aurait attendu plutôt à l'offensive.
Parce que vous avez un on va dire un candidat putatif qui est Monsieur Bardella, et Jordan Bardella n'a jamais fait de campagne de cette taille-là, la présidentielle à laquelle il se prépare, même s'il doit pas se préparer, mais il se prépare quand même, et qu'il fait, il tombe dans l'écueil classique, c'est-à-dire qu'il joue le deuxième tour avant de jouer le premier. Le premier tour, il faut rassembler son camp. Je pense qu'il y a...
Il est donné à 36% dans les sondages au premier tour.
Oui, si les gens votent. C'est toujours pareil, c'est que oui, c'est très important. L'expérience, je sais ce que c'est, puisque j'ai fait un certain nombre d'élections présidentielles. L'expérience nous dit attention à ces sondages qui nous mettent très haut. Très bien, c'est un indicateur. C'est pas une sûreté totale de résultat. C'est une sûreté de vote, c'est-à-dire que les gens disent si je vote, je voterai Rassemblement National. On se souvient quand même qu'il y a eu des municipales, des régionales, où il y avait eu une faible mobilisation de l'électorat RN. Marine Le Pen était passée à la télévision pour dire « Allez voter, qu'est-ce que vous faites ?» etc. Ça n'avait pas été suivi des faits, et le résultat attendu du RN n'avait pas été bon. Pour l'élection présidentielle, c'était un petit peu différent, parce que c'est une élection qui marque beaucoup, qui est centrale dans la vie politique française. Il n'en demeure pas moins que si vous envoyez des messages extrêmement troubles à votre électorat, que vous jouez un autre électorat avant de jouer le vôtre, vous risquez d'avoir une faible mobilisation. Donc j'alerte depuis des semaines en disant, attention, ne jouons pas le deuxième tour avant de jouer le premier. Il faut d'abord rassembler ce socle granitique, comme disent les sondeurs, qui est autour de 20 à 25%, et après vous arrivez à gagner au fur et à mesure des pourcents, parce que la campagne se passe bien, parce que vous avez... la campagne nationale, les thématiques sont les vôtres, et qu'à partir de ces 20-25%, vous commencez à bâtir votre score du premier tour. Mmh. L'objectif, c'est sortir premier le soir du premier tour, avec la marge la plus confortable par rapport à vos adversaires.
Parce que la peur, quand même, du rassemblement, enfin, l'idée du Rassemblement National, on a l'impression, c'est quand même de toujours poursuivre cette logique de dédiabolisation qui a été enclenchée par Marine Le Pen il y a environ 15 ans. Et finalement, ce qui les mène à voilà, ne pas participer, demander à ne pas participer aux manifestations d'hommage à Quentin, à lâcher des collaborateurs parlementaires, François Bousquet en parlait. Selon vous, en fait, il y a aussi cette idée que le milieu militant nationaliste, ça représente quasiment personne en fait, non, en électorat. Donc, dans le fond, pourquoi faire plaisir à ces gens-là?
Parce que vous avez des gens qui sont aujourd'hui à la tête du Rassemblement National, mais Marine Le Pen à part. Mmh. Parce que l'héritage autour de son père, tout ce qu'elle a vécu, elle connaît très bien ce qu'est le militantisme, il n'y a pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, elle est très éloignée de ça. Et les gens qui sont aux affaires du parti ne savent pas ce que c'est que le militantisme. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un parti politique. Ce sont des gens qui ont transformer un parti qui déjà structurellement n'était pas super fort. Mmh. Voilà. Ils l'ont transformé en une machine électorale qui commence à marcher pas mal. Mmh. Ce qui est, il faut reconnaître, le score et le nombre de députés du Rassemblement National sur les deux dernières législatives est très encourageant. Il n'en demeure pas moins que quand vous n'avez pas cette culture, vous en avez une autre. Mmh. Et que cette autre, c'est de se dire, attention en termes d'image, je dois correspondre à ce qui me permet, pense-t-il, d'avoir ces scores aux législatives. Mais c'est pas ça, leur score aux législatives, c'est pas ça, c'est pas la qualité de leur campagne, ni leur attitude. Leurs campagnes sont relativement, je parle pas de la présidentielle, encore une fois, ce qui est un autre modèle, elles sont relativement médiocres, d'image, en termes de discours, on reste en vérité sur les fondamentaux. Oui. Et c'est ce que veulent entendre les électeurs. Mmh. C'est-à-dire, on parlait d'insécurité, d'immigration, de tout ce qui a toujours été le discours de fond et de base du Front National, puis du Rassemblement National. Après, vous pouvez rajouter les questions sociales, mais qui sont liées à l'évolution de la société, la mondialisation, etc. etc. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Et encore une fois, essayer de courir après des électorats qui n'existent plus vraiment. Je veux dire que quand vous entendez, ah oui, ce qui est bien avec Jordan Bardella, c'est qu'il cherche à ramener l'électorat LR. Mais de quel électorat parle-t-on? Non, mais de quel électorat parle-t-on? Faut rappeler que LR a fait 5% aux dernières législatives.
Présidentielle, oui, bien sûr.
Non, législative, ouais. Législative, c'est 5% et ils font moins de 4, ils font moins de 5 à l'élection présidentielle. Donc c'est pas terrible, quoi. Je veux dire, on va pas non plus complètement se déjuger ou oublier qu'est-ce que l'identité d'un parti qui défend l'identité. Je veux dire, si c'est pour nous-mêmes nier notre identité par rapport à ce qu'a été le Front National et ce qu'a été le Rassemblement National, oui, il y avait des choses à changer. Mais tout le monde l'a toujours dit, puisqu'il y avait même eu des scissions, etc. Il y a beaucoup de choses, mais qui étaient plus dans la pratique politique, dans l'organisation politique, dans un discours qui évoluait trop et qui quelquefois était dans la caricature. Oui, il fallait changer un certain nombre de choses. Il fallait vers l'efficacité. Moi, encore une fois, je ne veux pas charger la mule, mais je vois ce qui s'est passé lors des élections législatives anticipées. Il y a eu des récits absolument terrifiants du plan Matignon. Oui. Donc il n'y a pas plus de plan Matignon que de beurre en branche, et pourtant vous aviez une équipe de 6 personnes qui étaient censées travailler à ce plan Matignon. Bon, visiblement, il n'y avait pas de plan Matignon. Donc tout ça est cher payé pour des résultats qui, pour l'instant, sont toujours en attente. Ça fait... À quel moment la situation nécessiterait d'être pire et d'avoir un vrai coup de plus pour le Rassemblement National? Je veux dire, on est à 3300 milliards, je ne sais plus à combien ça évolue tous les jours, 3300 milliards de dettes, vous avez une immigration incontrôlée, vous avez une insécurité complètement dingue, vous avez un nombre d'homicides qui explosent. À quel moment les planètes ne sont pas alignées pour le Rassemblement National? Il faudra peut-être se poser, c'est plutôt au Rassemblement National de se poser la question de savoir que pourquoi, alors que toutes les planètes sont alignées, alors que les thèmes qu'il a défendus depuis longtemps, aujourd'hui, sont complètement sur la place publique, dans les médias, dans les cercles de réflexion, pourquoi il n'arrive pas encore à gagner?
Oui. Et alors, justement, il y a cette, on a l'impression que le Rassemblement National, du coup, pardon, essaye d'éviter la rediabolisation, justement avec cette histoire de plan Matignon, en expurgeant les fameuses brebis galeuses. Aujourd'hui, en expurgeant des personnes comme, je crois que c'est Vincent Claudin, hein, qui était l'ami de Quentin et dont qui a été accusé de tweet particulièrement outrancier, disons-le. Cette histoire à Belfort. Dans le fond, est-ce que c'est des personnes comme ça, un petit peu isolées dans le parti, selon vous, peuvent faire en sorte que les médias de gauche ou les médias en général ramèneront le RN aux heures les plus sombres? Ou alors, est-ce que dans tous les cas, ça arrivera?
De toute façon, dans tous les cas, ça arrivera. Voilà. Mmh. Y a plusieurs choses. L'histoire des brebis galeuses, l'expression, je trouve, est malheureuse. Quels sont ceux qui les ont, qui ont laissé passer un certain nombre de personnalités à travers les, à travers le tamis? Il y a une réunion. Moi, j'entends ce qu'on me dit. Hein, on me dit qu'il y a une commission nationale d'investiture qui est extrêmement dure. D'ailleurs, je connais des gens qui sont passés devant cette commission nationale d'investiture et qui m'ont dit que ça avait été un exercice particulièrement éprouvant et que d'ailleurs certains n'ont pas été pris alors qu'ils avaient des très bons profils, qui n'étaient pas des brebis galeuses, mais on trouvait qu'ils pouvaient être pas trop sur la ligne. Je ne sais pas de quelle ligne on parle, parce que je ne connais pas, aujourd'hui je suis incapable de vous dire quelle est la ligne du RN. Mais en revanche, il y en a d'autres qui sont passés. C'est quand même extraordinaire. Donc, la responsabilité serait sur ses propres personnes, alors que ce sont ceux qui les ont choisis qui s'exonéreraient de toute responsabilité. Je veux dire, s'il y a des brebis galeuses, c'est le président de la Commission nationale d'investiture qui doit sauter, normalement. Voilà, c'est lui qui les a laissés passer. C'est lui qui a apporté sa signature et qui a dit « bon pour le service ». Bon, ces gens-là, visiblement, il y a tout. Il y a tout. Oui, vous avez des gens qui font des saucisses parce qu'ils sont, parce qu'ils pensent pas, parce qu'ils, déjà ils sont pas formés. Parce que un parti, ça forme ses cadres. Le Rassemblement National ne forme pas ses cadres aujourd'hui, ne forme plus ses cadres, puisque c'est le même système. Vous m'excuserez de cet anglicisme. Je sais, sur Radio Courtoisie, on fait très très attention, mais c'est la porte à battants, hein, la revolving door, la porte à battants. C'est-à-dire que c'est comme les startups. C'est-à-dire que on fait tourner beaucoup les effectifs et que là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui passent, peu de gens qui s'implantent, parce qu'on n'aime pas ça non plus au RN. Hein, c'est un parti qui a un paradoxe en lui-même, c'est qu'il s'est monté contre son propre appareil. Il y a toujours une méfiance extraordinaire envers l'appareil. Donc on fait très régulièrement tourner les responsables de fédération, on vous laisse jamais vraiment dans la même circonscription très longtemps. Il suffit de regarder l'historique des circonscriptions, vous verrez qu'il n'y a pas. Il y a un certain nombre de circonscriptions où les responsables.
Le candidat d'année en année, bien sûr.
Exactement. Et puis, vous avez aussi cette crainte permanente de ce que sont capables de faire vos propres candidats. Encore une fois, c'est quand même extraordinaire. Vous avez des gens qui font des saucisses. On va dire que la jeune femme qui va sur une foire aux armes et à la brocante, qui se met une casquette à la Loupfaf, c'est pas très malin. Quand même. On va pas dire que ça montre quelqu'un d'un niveau particulièrement brillant. Vous êtes candidat RN. Vous trouverez rien d'autre qu'à vous mettre une casquette de la Loupfaf. Faut vraiment pas être malin. Celle-là, elle est certainement très gentille. Je sais pas du tout, je la connais pas. Peut-être qu'elle a des amis formidables, que c'est une maman extraordinaire. Je sais pas. Mais en tout cas, comme candidate, elle est pourrie. Et ça, je veux dire qu'elle soit partie, ça me pose pas de questions. Après, ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est qu'un certain nombre de gens qui font des tweets. Mais ça aussi, c'est une sale manière. C'est l'exemplarité aussi. Hein, peut-être que de voir des dirigeants du RN qui font beaucoup de tweets toute la journée, qui tweet toute la journée, ça donne des idées aussi à certains candidats, responsables locaux, qui se disent que eux aussi, pour correspondre à l'image du parti et de ses responsables, doivent tweeter, sauf qu'ils n'ont pas des équipes avec des gens qui relisent, qui se disent tiens, peut-être qu'il y a un double sens dans la phrase, et que se sentant obligés de communiquer à tout prix, finissent par raconter des bêtises, ou en tout cas, plus que de dire des bêtises, parce que j'ai vu un certain nombre de tweets qui avaient agacé la direction du parti, c'est pas non plus des trucs complètement délirants, mais ça retire ce que je viens de dire. Au demeurant, Il y a un certain nombre de, décisions un peu curieuses et un peu à l'emporte-pièce de la part de la direction du parti.
Oui, on a l'impression qu'ils essayent de se débarrasser un petit peu des.
Mais parce
des
que c'est des gens, enfin, je veux dire, là encore, regardez ce qui est. Je parle pas de Marine Le Pen encore une fois, qui est quelque chose complètement à part. Marine Le Pen. En plus, je la connais. C'est une très bonne candidate, c'est quelqu'un qui a des vraies convictions, etc. Je vais parler plutôt de la structure du parti. Aujourd'hui, les gens qui font tourner le parti sont des gens qui n'ont pas grandi dans le parti, qui ne sont pas nés dans le parti et qui même n'appartiennent même pas à la famille nationale. Alors, qu'ils soient venus vers le grand mouvement national, pas de problème. Il n'y a pas de souci, tant mieux. Il faut accueillir des gens s'ils ont vu tout d'un coup la lumière et qu'ils ont compris que c'était vers le RN qu'il fallait aller. Moi, ça me va très bien. Ma difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont quasiment plus que des gens venus de l'extérieur avec une expérience politique, on va dire, pas toujours dans les thèmes de ce qu'a porté le mouvement national, qui font le là.
Oui.
Bah, moi, ça me pose un problème aussi.
Arnaud, Stéphane, je rappelle donc que vous êtes fondateur de La Note de Com, ancien conseiller en communication de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal et Marine Le Pen. Nous parlons actuellement, pour les auditeurs qui nous rejoindraient, du contre-récit qu'on peut apporter, qui est apporté par la gauche et que le RN apporte aussi dans cette affaire Quentin, de la structure du Rassemblement National. Et puis je rappelle aussi à nos auditeurs qu'ils ont tout intérêt à nous faire un don.
Effectivement, cher Alexandre, votre soutien financier est indispensable à la survie de Radio Courtoisie, donc je vous invite à nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr ou bien encore de nous adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci beaucoup, Arnaud.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Alors, Arnaud, Stéphane, je reviens vers vous. Donc, on était sur une question qui semble assez centrale, qui est le RN et ses militants, dans le fond. Parce qu'il y a aussi un sujet qui est que comment ça se fait que toutes ces personnes, même qui sont collaborateurs parlementaires et qui se retrouvent à être à la fois dans des groupes identitaires ou nationaux-révolutionnaires et à la fois au Rassemblement National, avoir des engagements à côté quelque part, on a l'impression qu'ils n'ont pas de vie militante forcément au sein du Rassemblement National et à côté de ça, qu'il y a une forme de, vous l'avez dit, de manque de formation des cadres, mais même une forme de d'enrégimentement presque du militant que peut avoir la gauche, par exemple.
Alors oui, c'est très différent. C'est deux approches qui aujourd'hui sont complètement différentes. La grande faiblesse des partis politiques en général, c'est la disparition des vraies structures militantes. Tout à l'heure, je parlais d'un lieu de sociabilité. Un parti politique, c'est d'abord un lieu de sociabilité aussi. Vous avez des camarades politiques, vous les voyez, il y avait la réunion de la section, etc. Ça a quasiment disparu, les gens en piscine, ils peuvent pas, ils préfèrent tweeter plutôt que d'aller en réunion. Il y a aussi le sentiment d'inutilité de ces réunions, parce que vous travaillez vos réunions, et puis hop, le parti vous envoie un crâne d'œuf, qui n'est plus du tout votre candidat, qui n'a aucun rapport avec la circo, à part qu'elle est très bonne, et que donc c'est un endroit pour se faire élire, et que vous avez tout d'un coup un candidat que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc il y a une désespérance en tout cas. Et puis vous avez aussi quelque chose de, à mon avis, de fondamental, c'est que l'ensemble des partis politiques, ça ne concerne pas que le Rassemblement National, loin de là, hein. Il ne faut pas non plus blâmer le Rassemblement National qui, encore une fois, fait quand même les scores qu'il fait et représente. Mais si on a deux minutes, on va en parler d'ailleurs de ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement de jeunesse. Les partis politiques ne se sont pas occupés de leur mouvement de jeunesse. Donc, vous êtes obligés, comme on dit dans l'industrie d'armement, ou pas d'ailleurs, il n'y a pas que l'industrie d'armement, on est obligé d'acheter sur étagère. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas dans le parti, vous êtes obligé d'aller le chercher à l'extérieur. À l'extérieur, ce sont des gens qui ont été formés à l'extérieur, c'est pas vous qui les avez formés. Quand les gens ont été formés dans les mouvements de jeunesse, ils savent qu'il y a des choses qu'on leur a apprises. Encore une fois, ils ont été formés, ils ont été encadrés. Donc on fait attention à ce que justement il n'y ait pas de débordement. On leur explique justement le danger du débordement pour l'image du parti. On leur explique un tas de choses. Et puis, on crée aussi son service d'ordre. pour tenir les manifestations, y compris tenir les, ses propres militants,
etc. C'est ce qu'a le Rassemblement National, par exemple.
Il n'y a plus, de service d'ordre. Hein. Que si vous comparez ce qu'était le DPS à l'époque de Jean-Marie Le Pen, enfin, je veux dire, ça n'a plus rien à voir. Et plus ancien, pour ceux qui s'en souviennent, les DOM, qui était l'ancêtre du DPS, qui était sous la responsabilité du célèbre Popeye au FN à l'époque, ça n'avait rien à voir. Non. Et puis vous aviez des sections locales, tout ça était très organisé. Mais plus vous avez de militants, plus vous avez de mouvements jeunes, plus vous risquez des ennuis, en fait.
Oui.
Et donc, avant, les gens se retrouvaient en disant « Ah tiens, on va les coller, on va aller tracter. » Bah maintenant, les collages, c'est la nuit, on peut tomber sur des gens, donc on essaye de faire... il y a moins en moins de collages, on donne ça à des entreprises privées. C'est quelque chose qui a complètement disparu. Ce qui n'est pas le cas, en revanche... Alors, c'est la même chose chez LR, au Parti Socialiste, au RN, etc. Vous pouvez les nommer. Ce qui n'est pas le cas dans deux mouvements, à mon avis, qui sont aujourd'hui... un qui est très important, un qui l'est un peu moins, mais qui a gardé cette structure. Du côté de la droite, c'est Reconquête, où je trouve qu'il y a quand même une culture militante qui est restée. Et puis, vous avez la France Insoumise. De toute évidence, la France Insoumise, ils tiennent le terrain. Je veux dire, il suffit d'aller... là où il y a des candidats, et vous allez voir comment ça se passe. Mais c'était intéressant parce que regardez le nombre de contenus que fournissent la France Insoumise et ses affiliés. C'est colossal.
Oui.
C'est colossal.
Et même on peut parler de cet Institut La Boétie aussi qu'ils ont lancé. En l'occurrence, ils ont quand même des réunions très régulières, ils ont des notes qui produisent. Et puis, on
des
a
éléments de langage, des notes techniques, etc.
Et puis ceux qui sont concernés quelque part, c'est tous les cadres, même intermédiaires, pas seulement les députés, pas seulement les responsables quelque part.
Et vous rajoutez les causeries très régulières de Jean-Luc Mélenchon, où il tient le crachoir pendant 3 heures pour expliquer la situation. Oui. Mais lui a été très bien formé, puis il a été formé chez Lambert, et il a gardé cette idée de causerie où on explique la situation de manière très régulière. Mais ça c'est passionnant, parce que regardez ce qui se passe sur l'affaire Quentin. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai passé quelques coups de téléphone. Je parle des gens qui sont susceptibles d'être dans les médias et qui ne sont pas de la France Insoumise, bien au contraire. Nous n'avons aucune coordination. Personne ne sait qui va aller faire quoi. Il n'y a pas d'éléments de langage. On n'essaye pas de discuter. Personne m'appelle en me disant « Tiens, il y a une étude, peut-être que tu ne l'as pas vue. »
On parlait tout à l'heure, Arnaud Stéphane, des 90% de morts en termes de crimes politiques qui viendraient de l'extrême droite.
Mais bien sûr, ça c'est atypique. On a été obligé de discuter là-dessus pendant des jours.
Oui.
On en discute encore. Des plateaux entiers, avec cet élément de langage facile à récupérer, donc qui est utilisé par les médias, qui n'ont pas vérifié.
Qui n'a toujours pas été, en plus, vraiment invalidé, alors qu'il y a tous les éléments pour. C'est-à-dire que vous, par exemple, j'ai vu que vous aviez fait quelques tweets. Voilà, vous parliez de tweets. Vous avez fait quelques petits tweets, justement, à ce sujet. On parlait de Paul Sugy, qui était sur le plateau et qui en avait un peu parlé. Mais il n'y a pas eu un gros papier, il n'y a pas eu une note qui a été produite par un de nos nombreux instituts qu'on a désormais à droite pour faire le contre-récit de ça, parce que c'est évidemment faux.
Rien. Voilà. Moi, je suis très content de venir sur Radio Courtoisie, mais je vais vous dire un truc.
Oui.
Ça fait 7 ans que je fais des médias maintenant. J'ai été pigiste, donc, puisque c'est le terme qu'il faut utiliser, sur LCI pendant quasiment 4 ans. J'ai travaillé sur BFM TV, je suis aujourd'hui sur France Info. Mais France Info, ils m'invitent et je parle et je dis ce que je veux. Donc ils sont très gentils et je vais pas. Alors là, Marc Hainaut est aussi de Valeurs Actuelles. Donc on va pas leur dire qu'ils sont méchants à pas nous inviter puisqu'ils nous invitent. J'ai quand même plusieurs plateaux par semaine sur France Info. C'est la première fois. C'est la première fois que je suis invité sur Radio Courtoisie. C'est la première fois. Je dois faire plusieurs centaines de plateaux à l'année. Je suis aussi sur une autre chaîne de radio qui s'appelle Sud Radio, où j'y suis toutes les semaines. Je ne suis jamais sur les médias
Bah réjouissez-vous.
Mais oui, mais justement, je vous remercie aujourd'hui d'être là. Mais je n'y suis jamais. Ouais. Voilà. Enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que il y a une espèce de biais de confirmation qu'on a chez nous. Mais c'est aussi notre faute. Hein. Vous avez les gens qui disent ah ben bah, je suis allé sur CNews. C'est bien. Mm. Mais je veux dire, c'est pas sur CNews où vous allez vous faire secouer par trois sociologues qui vont arriver avec des notes en disant 90%, etc. Et d'ailleurs, nous sommes universitaires. Nous avons la science infuse. Et en plus, la personne qui anime le plateau vous dit, bah oui, quand même, eux, ils ont fait une vraie étude, c'est scientifique, ils sont du CNRS, c'est ça, c'est les mecs du CNRS qui font ces études. Et vous, vous arrivez, ah oui, mais non, moi, je suis pas d'accord, parce que je me souviens que Bidule, en vérité, il n'était pas vraiment d'extrême droite, mais un petit peu, mais pas vraiment. Vous partez dans un discours qui est incompréhensible, et je pense que tout ça mériterait d'avoir un peu plus de corps. Mais c'est notre problème. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a une archipélisation aussi, une archipélisation à droite. Tout le monde parle de Chevalier, tout le monde parle de Saint-Louis ou de Ragnar, le viking, et tout le monde se comporte comme un boutiquier. Et ça m'embête un petit peu.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que chacun a sa chapelle, chacun a son institut. Et c'est vrai que moi, par exemple, je suis toujours surpris du fait que l'Institut pour la justice, l'Observatoire pour l'immigration, l'Observatoire des violences politiques, enfin toutes ces choses-là, par exemple, travaillent assez peu en lien apparent avec le Rassemblement National.
Ou avec qui que ce soit.
Ou avec qui que ce soit, d'ailleurs.
Personne ne m'a appelé, encore une fois. Écoutez, depuis l'affaire Quentin, j'ai dû faire pas loin d'une vingtaine ou un peu plus de plateaux au total. Enfin, je veux dire, c'est complètement déliant. Je cherche moi-même toutes les informations que je vais présenter sur les plateaux. Mmh. Alors, c'est pas non plus la physique quantique, mais enfin, il faut que je me tape. Je l'ai lu, moi, l'étude qui dit qu'il y a 90%. Je me la suis tapée. J'ai été la chercher sur la revue parlementaire, politique et parlementaire. J'ai été écouter les vidéos de ces gens qui nous expliquent comment ils ont fait, les biais qu'ils ont utilisés, etc. Tout ça, je suis obligé de le faire. Mais encore une fois, je peux pas à la fois avoir mon activité professionnelle, aller sur les plateaux, faire les recherches, etc. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, nous serions dans le camp d'en face. Vous inquiétez pas qu'il y a une coordination, qu'ils ont les études.
Oui, il y aurait déjà eu une thèse du CNRS qui serait sortie.
Mais bien sûr. Il faut sortir de ce truc-là. Tout le monde a sa petite boutique et tout le monde se dit. Regardez ce qui s'est passé avec French Carcan.
Oui.
C'est quand même extraordinaire. Mmh. Ces gens font un travail fabuleux. Mmh. Ils dérochent des heures et des heures et des heures et des heures de contenu, pas forcément des contenus les plus sexy. C'est souvent des réunions ou des blogs un peu inconnus du grand public. Et ils trouvent des choses extraordinaires, fantastiques.
On peut louer aussi Twitch Ghostist dans le même
exactement
dans le même esprit, qui effectivement va regarder tout ce qui sort sur Twitch, donc en direct sur la plateforme.
Et leur contenu a été utilisé.
Bah oui.
Et il a fallu qu'il tweet pour expliquer que Monsieur Pro devrait quand même citer French Carcan de temps en temps. Et d'ailleurs, j'ai vu la scène. Il a dit ah ben je ne savais pas mais c'est marqué dessus mais je les connais pas. Bah oui, mais il connaît pas, mais il a utilisé leur contenu. Et voilà, j'ai peur que de travailler tout le temps de manière complètement éclatée, en gardant chacun, en disant ah bah oui, mais si je parle de son blog, c'est le sien qui va monter. Ça, on cherche pas l'efficacité, en fait. Cet esprit de boutiquier, c'est pas possible. Aujourd'hui, on voit bien, il y a eu un meurtre affreux de Quentin, et on se retrouve, nous, à jouer sur les talons. En se disant non, mais non, c'est pas vraiment ça, il n'y a pas de néo-nazis, mais l'humanité qui sort un papier. Mais depuis quand l'humanité fait des papiers d'investigation? Mais c'est curieux. En un an, ils en ont sorti plusieurs. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, ils font pas ça. C'est un journal qui tient par l'opération du Saint-Esprit avec nos impôts.
L'opération du Saint-État, même, d'ailleurs.
Oui, du Saint-État, plutôt, vous avez raison. Ils font pas d'investigation, c'est pas vrai. C'est quand la dernière fois qu'ils ont sorti un scoop? Enfin, tout ça est bidon. Mais ils sont fournis, ils ont des éléments qui leur sont donnés. Comment nous sommes-nous défendus par rapport à cette histoire soi-disant de guet-apens qui aurait été organisée par les jeunes femmes de Némésis prennent très très cher en ce moment. On appelle à leur
dissolution. D'ailleurs, on aura Mathilda dans 10 minutes qui viendra justement expliquer toute cette histoire.
Mais oui, mais c'est Il aura fallu 72 heures pour qu'elle explique cette histoire. Une opinion, elle se forge dans les 24-48 premières heures. Donc c'est très bien qu'aujourd'hui, et moi je trouve que ces jeunes femmes sont extrêmement courageuses, et je suis ce qu'elles font, mais il n'empêche que personne ne les a vraiment aidées, là aussi.
Oui, alors c'est... ça c'est quelque chose d'assez fascinant, c'est que c'est quand même un mouvement qui existe depuis plusieurs années, qui globalement est un peu irréprochable parce que c'est pas un mouvement qui a jamais été impliqué dans des bagarres, dans des affaires sombres ou quoi que ce soit.
Celles qui
et
sont
là,
tapées.
À la première... Oui, en plus c'est plutôt ça. Et là, à la première tension... ce qu'on voit, c'est que il y a pas de grand soutien de la part du Rassemblement National. Par exemple, il y a pas de soutien de la part de la plupart des structures. Il y a pas d'esprit de groupe, alors que c'est quand même, comment dire, un collectif qui s'est quand même fait connaître par c'est le fait que ce soit justement très propre et que
esprit de boutique,
ça marche. Oui,
esprit de boutique, voilà. Ah bah non, elles sont pas chez nous, donc si elles sont pas chez nous, tant pis. Ou ce qu'elles font, bah nous on le fait pas, donc on va pas dire que c'est bien, parce que sinon on va nous dire pourquoi vous le faites pas vous. C'est, l'effet de contraste est terrible en vérité. Ce que font un certain nombre de mouvements, c'est-à-dire de revenir sur ce qu'est l'agit-prop, comme Némésis, l'agit-prop, on est incapable de le faire. Dans quel pays le parti politique d'une candidate comme Marine Le Pen qui a été deux fois au deuxième tour de l'élection présidentielle, qui a les sondages qu'elle a en ce moment, et qui se retrouve, pour reprendre l'expression, et vous, encore une fois, les auditeurs nous excusons, mais c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a appelé le lawfare, c'est-à-dire l'utilisation du droit pour empêcher ou pour faire de la politique, et ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez une offensive qui est à la fois médiatique et judiciaire pour vous empêcher. C'est ça. Et la réponse du Rassemblement National, c'est quoi? Bah rien. C'est-à-dire, il y a eu un pauvre meeting mal organisé où il y a eu 3500 personnes à Paris sur une place trop grande. Mais dans n'importe quel autre pays, il y aurait des manifestations toutes les semaines. Il y aurait des manifestations en permanence devant le Conseil constitutionnel, devant la Cour d'appel. Il y aurait des... Ah non, 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 surtout pas. Mais pourquoi on le fait pas? Et pourquoi ils sont pas allés à Lyon non plus? Parce que la faiblesse structurelle. Le problème, c'est que si le RN aujourd'hui avait organisé une manifestation, ils pouvaient organiser une manifestation. Ils avaient qu'à faire même leur propre parcours. Ils avaient même à faire leur propre manifestation avec leur service d'ordre pour bien être sûr de pas se mélanger avec qui que ce soit s'ils avaient eu peur. C'est ce que fait le Parti communiste. C'est ce que fait la CGT. Ils se mélangent pas avec
ils ont leur partie du cortège.
Ils ont leur partie du cortège. Et puis même, ils auraient pu avoir leur parcours à eux. Et non, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Bah parce que sinon, ils seraient retrouvés à 400. Parce qu'ils ne savent plus organiser ce genre de choses. Je veux dire, aujourd'hui, la jauge d'un meeting du Rassemblement National, et encore une fois, moi, je n'ai pas de problème. J'ai travaillé avec Marine Le Pen, pour laquelle j'ai la plus grande admiration. Mais la jauge d'un meeting du Rassemblement National aujourd'hui, c'est entre 3500 et 4000. J'aurais juste rappelé qu'en 1988, Jean-Marie Le Pen faisait des meetings au stade Vélodrome.
Mais alors comment vous expliquez que quand même l'électorat a triplé, quadruplé, et que dans le même temps, le nombre de militants réels a baissé? C'est quand même fascinant.
C'est que vous êtes passé dans autre chose. Vous êtes passé sur une logique totalement électorale et plus du tout dans une organisation sociale qui est un parti politique. Et vous le voyez bien. Vous n'avez à une époque, vous aviez entre 30 et 40% du corps électoral qui avait déjà voté Rassemblement National une fois, mais vos scores étaient autour de 13, 15%. Donc ça voulait dire que vous aviez vraiment des électeurs qui, une fois, votaient pour vous, une fois, ne votaient pas pour vous. Ouais. Mais encore une fois, la situation sociale, sécuritaire, etc. a énormément évolué. Si aujourd'hui le Rassemblement National fait 30 ou 35% des voix, c'est pas dû au hasard, c'est aussi... Parce que ce qu'il dénonçait depuis des dizaines d'années se confirme malheureusement. Et vous passez donc de 10% dans les années 80. Enfin, la croissance est très lente. Alors, c'est dû à plein de choses, le cordon sanitaire, la désinformation, mais aussi une faiblesse structurelle. Encore une fois, je veux pas être cruel, tout le monde va me tomber dessus en disant « Ah, mais rien ne va », etc. Ben, je sais pas. Aujourd'hui, pour les élections municipales, le Rassemblement National, premier parti de France, comme c'est dit dans la publicité, va présenter 700 listes. Il y a 36 000 communes en France. Juste pour un petit chiffre chez vous. LR aujourd'hui, qui représente plus grand chose, à 10 000 villes.
Mmh. Voilà. Ouais, bah, bien sûr.
Donc c'est comme ça qu'ils tiennent le Sénat, c'est comme ça que voilà, etc.
Et en plus, c'est même, j'ai envie de dire, comme ça qu'ils arrivent à avoir des personnes qui durent dans les institutions et qui se forment elles-mêmes en devenant maire, en devenant sénateur, même s'ils n'y connaissent rien à l'origine. De toute façon, c'est comme ça aussi qu'on apprend. C'est en devenant conseiller municipal.
Bien sûr.
Mais en l'occurrence, effectivement, ben, on voit que on a un train de retard, que ce soit au niveau de...
Plus de coordination, plus de travail en commun, plus de travail tout court. Mmh. Arrêter de travailler en silo, partager les informations, se coordonner, et puis arrêter d'avoir peur systématiquement de tout. Je veux dire, les jeunes femmes de Némésis, c'est extraordinaire ce qu'elles font. Enfin, je veux dire, on a la chance d'avoir ces jeunes femmes courageuses, et en plus qui ont un positionnement extraordinaire. Et pourquoi personne... Pourquoi le soutien est aussi timide? Genre, ça va, quoi. Genre, quand vous avez des militants de la CGT qui retournent tout, eux, qui font des actions violentes, alors que Némésis ne fait pas des actions violentes, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit, ah ben oui, ils ont peut-être été violents, mais être licencié, c'est pas violent aussi. Ça, bon, voilà. Je suis désolé, pour l'instant, j'ai jamais entendu dire que Némésis avait ravagé une préfecture.
Voilà. Non, et je crois pas que ce soit exactement le projet, mais on posera éventuellement la question à Mathilda qui vient nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça a été un plaisir.
Arnaud Stéphane.
Rare, oui, mais un vrai plaisir.
Mais qui n'appelle qu'à être, renouvelé, ne vous en faites pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
À bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Comme vous avez, j'ai vu beaucoup de commentaires dans le chat qui appréciaient justement la parole d'Arnaud Stéphane qui vient rarement, effectivement, qu'on réinvitera sans doute avec plaisir. Écoutez, dans quelques minutes, nous parlerons de la loi euthanasie avec Grégor Pupinck. Puis, ce sera la chronique de Raphaël Emma et l'analyse de Jean Messia. Mais tout de suite, un tout petit rappel des titres de l'actualité avec Magda Hautefeuille.
Hier, une enquête a été ouverte à Paris pour soupçon de reconstitution du groupuscule ultra-violent de Raphaël Arnaud, la jeune garde antifasciste dissoute en juin dernier. Un soupçon de reconstitution dont seul l'État semble étonné. Cette année, le salon de l'agriculture compte environ 25% de visiteurs en moins sur les premiers jours. Si certains producteurs maintiennent leur chiffre d'affaires, beaucoup se plaignent de craindre de devoir ramener chez eux jusqu'à 90% de leur stock. Et enfin, encore un nouveau cap a encore été franchi vers l'égalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. La proposition de loi sur l'aide à mourir a été adoptée hier une seconde fois à l'Assemblée nationale avec 299 voix pour et 226 contre. Et nous célébrons ce 26 février Saint-Nestor et Saint-Porphyre.
Merci Magda.
Ligne droite.
Et nous recevons désormais Mathilda du collectif Némésis. Bonjour Mathilda. Alors vous avez quand même, il faut le dire, une actualité particulièrement chargée ces derniers jours. On a entendu des accusations proférées par l'Humanité, un appel à la dissolution. Laurent Nunez qui se met sur le coup. Alors décrivez-nous un petit peu la situation.
Oui, bonjour Alexandre et bonjour chers auditeurs. Eh bien, comme vous le savez, le 12 février dernier, Quentin a été battu à mort dans les rues de Lyon. Et depuis ce drame, l'extrême gauche, qui est pourtant responsable de sa mort, salit la mémoire de Quentin et le collectif Némésis par la même occasion. Donc, c'est ainsi que le journal L'Humanité s'est empressé de sortir un article pour accuser le très fasciste collectif Némésis de tendre des guet-apens à la très gentille jeune garde, les obligeant à tabasser à mort des jeunes hommes au sol. Nous avons donc répliqué par un communiqué que je vais vous partager. Le collectif Némésis dénonce l'intoxication grossière de l'humanité et dépose plainte pour diffamation. Nous, le collectif Némésis, organisation engagée pour la défense des femmes françaises et européennes face aux violences sexuelles et à l'insécurité grandissante, réagissons à la publication calomnieuse parue dans l'Humanité le 22 février 2026 qui prétend révéler des conversations secrètes entre Némésis et des néo-nazis pour agresser des militants de gauche à Lyon. Cette opération d'intoxication par contre-feu n'est guère étonnante de la part d'un directeur de la publication d'un journal fidèle à sa longue tradition de propagande communiste, par ailleurs sénateur PCF, et qui a été l'un des premiers signataires de la tribune de soutien au mouvement violent La Jeune Garde antifasciste, publiée par ailleurs dans L'Humanité. Par des formulations insidieusement généralisantes, amalgamante et trompeuse. Ce journal dénature des échanges privés qui, à supposer même qu'ils soient vrais, ce qui reste à démontrer, sont en tout état de cause sortis de leur contexte de l'automne 2025 pour mieux calomnier et diaboliser notre collectif et salir, encore une fois, par un procédé d'inversion accusatoire ignoble, la mémoire de Quentin. Alors que les faits n'ont rien à voir, l'humanité procède à une manipulation médiatique grossière pour tenter de faire oublier que Quentin a bel et bien été victime, le 12 février 2026 à Lyon, d'un meurtre barbare commis en bande organisée par des membres de la Jeune Garde antifasciste en réaction à une action non violente de notre collectif pour contester la tenue d'un meeting politique de Rima Hassan au sein de Sciences Po Lyon. Les soutiens des meurtriers de Quentin savent en tout cas sur qui compter. De surcroît, les 10 messages, tels que partiellement cités dans l'article, ne portent en aucun cas sur des projets d'agression physique par guet-apens, comme l'imagine l'humanité, mais évoquent uniquement une action de type agit-prop, tractage ou stickage, classique chez Némésis. Jamais notre association, loi 1901, n'a donné de directive, de consigne ou de permis à quiconque d'organiser le moindre traquenard, contraire à tous les principes clairement énoncés dans notre charte écrite, non-mixité des actions, comportement irréprochable, non-recours à la violence. Toute initiative personnelle contraire à cette charte ne pourrait en aucun cas être revendiquée némésis et appellerait évidemment des sanctions internes appropriées. En 6 ans d'existence immaculée sur le plan judiciaire, le collectif Némésis a constamment condamné l'usage de la violence physique comme mode d'action politique et a toujours été très ferme et clair dans sa dénonciation des idéologies totalitaires et néfastes pour les femmes, telles que l'islamisme ou le nazisme. Il est parfaitement mensonger et diffamatoire de nous imputer une routinière cofabrication de guet-apens avec des néo-nazis, comme l'écrit l'Humanité. Des poursuites pénales seront engagées contre ceux qui affirmeront le contraire. Tel est par exemple le cas de Jean-Luc Mélenchon après ses accusations, qui repoussent toutes les limites de l'infamie et nous mettent en danger. Face à cette insécurité qui frappe en premier lieu les femmes, rappelons les chiffres accablants. Chaque jour, 362 agressions sexuelles sont recensées. En 2025, les viols et tentatives de viol enregistrées ont augmenté de 9% selon le ministère de l'Intérieur, avec plus de 50 000 victimes recensées. 27% des femmes déclarent renoncer à sortir seules de chez elles pour des raisons de sécurité. Et enfin, 167 féminicides ont été recensés en 2025. Le collectif Némésis a aidé de nombreuses femmes en les soutenant, en les informant et en les accompagnant face aux violences qu'elles subissent. Nous-mêmes faisons face à des agressions répétées. Menaces de mort proférées par Raphaël Arnaud, menaces relayées par Rima Hassan, incluant un appel public à nous dissoudre à l'acide, agressions physiques multiples lors de manifestations dans la rue, ainsi que des menaces de mort quotidiennes sur les réseaux sociaux. La nazification de militantes féministes qui ont simplement le malheur de pointer du doigt les causes de l'insécurité féminine est un procédé d'intoxication bien connu qui ne dupera personne.
Merci beaucoup pour cette clarification. Bienvenue, Mathilda. Il nous reste simplement 2 minutes, si vous le voulez bien. Quand même, vous êtes la menace d'une dissolution, menace proférée par LFI principalement, mais en tout cas même relayée par des éléments extérieurs à LFI. Comment vous expliquez ce retournement de situation formidable qui fait que la Jeune Garde, des militants de la Jeune Garde, visiblement proches et insoumis, tuent un nationaliste et finalement c'est Némésis qui est sous la menace d'une dissolution?
C'est un procédé très classique. Simplement, la gauche, l'extrême gauche, puisque là il est question de ces gens-là, nous accuse uniquement dans le but de défendre la Jeune Garde. Tout simplement. Ils savent très bien que les collaborateurs de Raphaël Arnaud sont allés beaucoup trop loin dans le meurtre de Quentin et leur seule défense là-dessus, c'est d'accuser Némésis de tendre des guet-apens. Je le rappelle, c'est ces conversations, si elles existent, et pour l'instant, rien n'a été prouvé. On parle d'échanges sur des messageries cryptées, donc c'est quand même assez nébuleux, des personnes sous pseudo. Si jamais ces échanges existent, ils datent de l'automne 2025 et ils n'ont donc rien à voir dans le meurtre de Quentin. Ces échanges ne surviennent pas au même moment. Donc, quand on a un Jean-Luc Mélenchon qui nous dit en pleine conférence de presse que Némésis a tendu un guet-apens le jour de la mort de Quentin à des gens d'extrême gauche, on est clairement sur de la diffamation pure et dure.
Oui, et puis comme vous le dites, rappelons que voilà, et c'est des messages qui ont été ressortis, recyclés d'il y a 3 mois, et à côté de ça, Jean-Luc Mélenchon vous a aussi accusé d'agresser les meetings de la France Insoumise, ce qui là aussi est quand même particulièrement étonnant.
Oui, particulièrement étonnant, sachant que nos agressions de meeting, on parle de 5 à 10 jeunes filles de 50 kilos, de 25 ans, qui viennent déployer une banderole ou des pancartes à l'entrée de meeting de la France Insoumise. Mais lorsqu'on a fait ça lors d'un meeting de Mélenchon, il a demandé à ramener les scalps de nos militantes. Voilà, je le rappelle quand même. Donc, je ne sais pas qui agresse qui et qui est victime de violence dans cette affaire, mais je ne suis pas sûre que ce soit Jean-Luc Mélenchon.
Merci beaucoup pour toutes ces clarifications, Mathilda. Et puis, on souhaite vraiment un bon courage au collectif Némésis dans ces épreuves, en espérant que vous en sortirez la tête haute comme il se doit. Merci beaucoup.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Ce débattons-en, j'ai le plaisir de d'être malade encore, merci, et de recevoir Grégor Pupinck avec qui nous allons parler donc de la fin de vie. Grégor Pupinck, bonjour, je rappelle que vous êtes essayiste et directeur de l'ECLJ, est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là, bonjour.
Alors, aujourd'hui, évidemment, la raison pour laquelle nous vous avons fait venir, c'est parce que hier, en fin d'après-midi, le texte de loi sur la fin de vie, comme il est appelé, a été approuvé par l'Assemblée nationale à 299 voix contre 226. Première question très simple, est-ce que, même si évidemment c'est une défaite, est-ce que c'est une défaite encourageante ?
Écoutez, je ne peux pas dire ça, non, ce n'est pas une défaite encourageante, c'est encore une défaite, même s'il y a eu une érosion très nette des votes en faveur de l'euthanasie, en particulier parmi les abstentionnistes. Lors du vote du mois de mai 2025, il y avait une cinquantaine d'abstentionnistes, il y en avait 57, et là, il n'y en a plus que 37. Or, l'écart de voix entre partisans et opposants s'est réduit largement entre les deux votes à l'Assemblée. Donc il y a eu, on peut dire, il y a un mouvement d'érosion de la majorité en faveur du texte qui s'explique en particulier par l'opposition croissante des abstentionnistes et aussi quelques personnes qui avaient voté pour en 2025 qui ont maintenant voté contre. Alors, donc il y a un mouvement qui se passe.
Alors déjà, comment est-ce que vous expliquez ce premier mouvement qui est insuffisant, mais quand même, d'une certaine façon, en tout cas, moi, je le dis pour moi, assez encourageant dans un certain sens.
Non, je dois le dire, c'est encourageant. Il faut continuer à se mobiliser. Ça montre, on va dire, une chose, je pense, qui est apparue de façon très, très visible pendant les débats, pour ceux qui ont pu suivre les débats à l'Assemblée ou sur Internet. C'est vraiment un projet de loi idéologique. Et donc, il y a un engagement farouche de la part des partisans de l'euthanasie qui a effrayé beaucoup de monde parmi les députés et parmi les personnes qui ont écouté les débats. Comme souvent pour ce genre de texte, il y a une forme d'obligation, un sentiment d'obligation au sein de la gauche de voter pour, d'être dans le camp du progrès et donc de suivre les quelques députés les plus radicaux comme M. Falorni, très loin dans l'idéologie. Il faut se dire, je pense que pour beaucoup de gens, beaucoup de députés, c'est pareil à l'Assemblée nationale comme partout ailleurs dans n'importe quel groupe, il y a des meneurs et puis il y a des gens qui n'osent pas aller contre, qui vont suivre. Et donc les suiveurs sont très nombreux sur ce texte. Parce qu'ils pensent que voilà, c'est une loi, dit-on, républicaine et qu'il faudrait s'aligner nécessairement. Or, ce qui apparaît au fil des débats, c'est que les intentions des rédacteurs, le texte tel qu'il est adopté, est vraiment radical. Il va extrêmement loin, il est dangereux. En fait, il est dangereux, il faut arrêter même de dire radical. C'est un texte qui est dangereux pour la vie des Français. C'est un texte qui est une abomination pour les droits des patients. Et les gens doivent le voir. Et donc, il faut que les gens ouvrent les yeux. Pour l'instant, ils sont encore aveuglés par l'idéologie. Ils sont aveuglés par cette espèce de fascination et cette habitude, on va dire, d'obéissance à l'égard de quelques leaders à gauche. Mais il faut vraiment que les députés ouvrent les yeux. Certains ont ouvert les yeux. Certains députés, comme M. Juvin, ont fait un travail, et d'autres, hein, un travail remarquable pour montrer jusqu'où va cette loi. Quand on voit le texte et quand on entend les débats, on a vraiment le sentiment que les députés, beaucoup de députés, ont perdu la raison. Ils ne sont plus capables de voir à quel point leur texte est extrême et irrationnel. Mmh. Irrationnel. On l'a dit, 2 jours pour permettre l'euthanasie, mais c'est de la folie. Oui, permettre à une personne de décider, soi-disant, librement de sa propre mort quand elle n'est pas légalement capable de signer un chèque. Il faut pas être... Il suffit de réfléchir pour voir que c'est de la folie.
Mais c'est je crois, Jean-Frédéric Poisson qui était à notre antenne hier et qui expliquait que, en fait, il fallait 7 jours pour résilier un abonnement Netflix, 2 jours pour, effectivement, c'est ce que vous dites, hein, mais réaliser une euthanasie, ce qui semble assez sidérant. Je voudrais venir un petit peu dans le détail de ce texte sur cette question des abstentionnistes et ceux même des suiveurs qui semblent assez importantes. Pardon, Yann Braun-Pivet expliquait que c'était un texte extrêmement attendu par nos compatriotes, hein, je la cite. D'un autre côté, on a l'impression d'un désintérêt général de la plupart, effectivement, des gens qui approuvent, enfin qui votent en faveur de ce texte, c'est-à-dire rares sont ceux qui s'en revendiquent, qui s'en réclament publiquement et qui sont fiers de leur vote, comme ça peut arriver. D'un autre côté, ces gens-là vont néanmoins voter. On a l'impression, sans trop de conviction, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche. Je rappelle que 17 députés du Rassemblement National ont quand même voté en faveur du texte sur l'euthanasie.
Oui. Comme je disais à l'instant, en fait, c'est une loi qui est portée par le camp, dit-on, humaniste. Faut dire, c'est une loi qui est présentée comme étant une nouvelle avancée républicaine portée par les lobbies, il faut le dire, des francs-maçons au sein de l'Assemblée et dans la société. Donc, c'est perçu comme étant l'une de ces lois sacrées de la République qui vient profondément changer la société et la nature humaine, la libérer la nature humaine de la sacralité de la vie pour que nous puissions acquérir une liberté à l'égard de notre propre vie par la faculté de nous donner la mort. C'est ça l'idée. Donc c'est foncièrement, comme c'était dit, anthropologique. C'est un changement par la loi de la société française, de la civilisation. L'interdit de tuer qui était là pour nous protéger, eh bien, saute pour nous faire acquérir, soi-disant, une nouvelle liberté. Vous remarquerez que les libertés que l'on veut nous offrir, comme celle-ci, c'est toujours des libertés qui sont destructrices, en fait. Mmh. Hein. Ce n'est pas une liberté pour construire quelque chose, c'est une liberté pour détruire, pour se tuer. Et donc, c'est ça qui est à l'œuvre. Et donc, devant ce projet idéologique qui est effectivement essentiel dans la pensée de ses promoteurs et qui s'inscrit parfaitement dans la tradition, on va dire, de l'homme nouveau de la Révolution française, de la République, dans la tradition philosophique de la franc-maçonnerie, il faut le dire franchement, c'est une loi maçonnique foncièrement dans son idéologie.
Alors, pardon, Grégoire Cupin, je fais juste une remarque à ce sujet-là, mais cet aspect maçonnique, souvent, quand il est avancé, c'est quand même... on a l'idée, effectivement, d'une forme d'agenda derrière, de secte, d'une sorte de complot qui aurait derrière tout ça. Quels sont les éléments tangibles qui font qu'on peut qualifier ça de maçonnique, dans le fond?
Ben en fait, c'est très simple, parce que les personnes et les idées. Les personnes et les idées. Mmh. Les promoteurs de cette loi font sans cesse le procès à des députés comme M. Hetzel ou à d'autres d'être chrétiens. Oui. Et font sans cesse le procès aux défenseurs de la vie d'être catholiques. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas aussi poser les cartes sur la table et dire « Oui, très bien, je suis catholique, j'ai effectivement un sens du respect de la vie, et vous, promoteurs de ce texte, pour la plupart, vous êtes soit directement, soit inspirés de la franc-maçonnerie. Oui. » Donc oui, au plan des personnes, c'est évident. Je veux dire, même le logo de la DMD, je dirais, est transparent. historiquement, les fondateurs de la DMD, oui. Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, Henri Caillavé, je veux dire, personne ne s'en cache.
Non, mais bien sûr, c'était simplement pour avoir les éléments tangibles oui. derrière, hein, comprenez bien.
Ils le reconnaissent parfaitement. Ils le reconnaissent parfaitement et c'est ce qu'ils disent parce que l'idée quand même qu'il y a au fond, c'est que l'homme doit s'émanciper. Voilà, s'émanciper par la transgression. Il doit s'émanciper de tout, y compris de sa propre nature humaine, par la transgression pour acquérir une liberté en fait qui serait totale. Et la liberté la plus extrême, c'est celle de pouvoir se nier soi-même, le nihilisme. Et ça, c'est leur vision. Et évidemment, dans l'arrière-plan, c'est se libérer du respect du sacré, se libérer du respect de la vie comme don de Dieu. Mmh. Donc ça, c'est le fond idéologique qui est extrêmement visible dans leurs écrits, dans leurs textes. C'est le fond. Ensuite, quand on regarde historiquement, ils vont très loin. Ils vont très loin et dans ces propos extrêmes. Alors voilà, donc il y a quand c'est ce genre de texte qui est promu à l'Assemblée nationale, il y a dans les rangs de l'Assemblée un grand respect pour cette tradition philosophique, on peut dire, et un sentiment de devoir obéir, suivre, on va dire, ce mouvement historique qu'on appelle républicain.
Alors maintenant, je voudrais rentrer un petit peu dans le détail de... Pardon, je vais y arriver. J'espère être pas menacé moi-même, mais de ce texte, c'est sur qu'est-ce qui est vraiment passé, finalement. Alors qu'on voit qu'il y a eu quand même quelques retournements, on va dire, positifs, dans le sens où eh bien, la souffrance psychologique seule n'est pas retenue comme un facteur suffisant pour subir une euthanasie. Sur la question de l'auto-injection, dans un premier temps, la gauche avait fait passer un amendement qui autorisait de solliciter le médecin pour réaliser l'injection. Finalement, la droite, je crois, est parvenue à le retourner. Est-ce que on a évité le pire, quand même? Est-ce qu'on aurait pu avoir un texte qui était pire que celui-ci? Et est-ce qu'on peut se dire que même le Sénat peut faire un petit peu de contrôle et de rectification pour qu'on ait un texte, même s'il passe, moins terrible que ce qu'on aurait pu prévoir à l'origine?
Non, en fait, la tactique parlementaire, ça a été d'intégrer ces deux amendements donc, que vous mentionnez pour qu'ils passent.
D'accord.
C'est bien parce que M. Falorni a vu qu'il y avait un risque que le texte soit rejeté, il l'a dit lui-même. Il faut renoncer à certains aspects, il ne faut pas tout demander au risque de tout perdre. Donc leur vision, évidemment, leur idéal, c'est l'idéal de la liberté face à la mort, et donc c'est de pouvoir choisir entre l'euthanasie et l'auto-injection, donc soit par un tiers, soit par soi-même, parce que c'est pour eux une vision. Sachant qu'il y a beaucoup plus de personnes qui meurent d'euthanasie par un tiers que qui se donnent eux-mêmes la mort. Donc la tactique, c'est de ne pas trop demander maintenant, de ne pas aller trop loin pour obtenir quand même un vote. Et c'est ce qui s'est passé hier. Mmh. Il y aurait eu moins de soutien final au texte si le texte était resté dans l'état tel que voté par la Commission des Affaires Sociales.
Oui. Donc finalement, l'Assemblée nationale a modéré les partisans du texte même l'ont modéré ou l'ont laissé se modérer dans le but d'avoir une approbation à peu près certaine, si on comprend bien.
Voilà, c'est qu'il il y a en fait, voilà, ils ont voulu modérer leurs ardeurs pour que ça passe et c'est passé avec moins de majorité. Mais entre-temps, les députés ont bien compris qu'il y a une volonté très claire d'aller plus loin. Et que si cette fois-ci, ils n'obtiennent pas tout ce qu'ils veulent, eh bien, leur volonté de l'obtenir demeure intacte pour la prochaine fois.
Alors, on rappelle quand même que même Olivia Grégoire, hein, qui est, je crois, hein, cette porte-parole du gouvernement, ou elle l'est toujours, je vous avoue que je m'y perds un petit peu avec ces gouvernements, disait qu'elle avait fini par voter contre parce qu'elle trouvait que le texte allait trop loin. Donc, visiblement, ces deux amendements n'ont pas suffi. Alors, la question qui se pose aussi, c'est le maintien de certains amendements qui semblent, pour le coup, de l'ordre du... du délire presque. C'est cette question du délit d'entrave et cette question sur laquelle d'ailleurs le député RN Christophe Benz a été assez mobilisé ces derniers jours. Et puis la question de la clause de conscience aussi, où là on a l'impression que ça restera, quoi qu'il arrive, solidement chevillé au corps du texte.
Oui, alors... C'est assez incompréhensible. Là, on voit comme certains députés l'ont dit, un peu la dérive totalitaire de leur idéologie. C'est que ils ne supportent pas que des personnes ne puissent pas être d'accord avec eux. C'est ça qui est fou. C'est que aujourd'hui, si un pharmacien délivre un poison, il va en prison.
Oui.
Demain, s'il ne le fait pas, il va en prison.
Oui.
Voilà. Donc délit d'entrave. Vous voyez, parce qu'il n'a pas la clause de conscience. Donc c'est de la folie. Je veux dire, c'est un renversement complet et ces gens-là n'ont aucun respect pour la conscience des pharmaciens, ni pour, on va dire, la liberté d'expression et l'attention, le soin que pourraient avoir ceux qui voudraient prévenir le recours au suicide ou à l'euthanasie. Donc c'est très clairement une volonté, encore une fois, farouche d'imposer leur idée parce qu'ils sont convaincus, en fait, d'avoir raison, et ils sont convaincus par cette loi de changer notre rapport à la vie et à la mort, et que la société s'adaptera.
Mmh.
Ils ont pensé la même chose concernant l'avortement, c'est pour ça qu'ils ont toujours renforcé les sanctions contre les personnes critiques, et là, c'est la même chose avec le délit d'entrave qui vient limiter fortement la liberté d'expression contre l'euthanasie et le suicide assisté, mais qui vient aussi de façon plus grave encore limiter la faculté que les personnes ont d'essayer de convaincre quelqu'un de ne pas se donner la mort ou de ne pas demander l'euthanasie.
Et alors, une question qui est subsidiaire à celle-ci, c'est est-ce que se posera la même question sur l'euthanasie que pour le suicide ? Parce que c'est souvent l'analogie qui est faite par les opposants à l'euthanasie sur cette question du délit d'entrave. Donc, je vais décidément... C'est l'idée que quand quelqu'un est sur le point de suicider, on a un devoir, donc je ne sais plus quel est le terme juridique exact, il m'échappe sur le moment, mais on a un devoir de l'empêcher de se suicider. En l'occurrence, ce ne serait pas le cas pour l'euthanasie. Est-ce que du coup, la législation pour le suicide risque de changer ? Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a de nouvelles implications ? Enfin, expliquez-nous.
En fait, oui, nous allons arriver dans une forme d'incohérence de la législation, parce que... D'un côté, on va promouvoir le suicide avec cette loi, très clairement, puisqu'on fait tout pour le faciliter, et on présente ça comme un droit. Et de l'autre, on continue en fait à maintenir l'obligation de prévenir le suicide ou d'assister, porter assistance aux personnes qui voudraient suicider. Donc l'idée qu'il y a, la différence en fait, c'est simplement le contexte. Ça veut dire que si la personne veut se suicider, il faut qu'elle le fasse selon la procédure.
Ah ouais.
Et dans ce cas-là,
c'est très français, j'ai envie de dire.
Voilà, dans ce cas-là, il faut qu'elle remplisse le formulaire. Et encore, il n'y a même pas de formulaire à remplir, parce que vous savez qu'il n'y a même pas besoin de demande écrite pour obtenir l'euthanasie. Hein. Une simple expression non écrite suffit. Voilà, donc si c'est selon la procédure, eh bien dans ce cas-là, c'est un droit. Par contre, si la personne veut sauter d'un pont, vous avez encore l'obligation, en principe, de lui porter assistance.
Eh ben c'est réjouissant. Ces incohérences, on a l'impression qu'elles se couplent, décidément, vous le disiez, à une forme... On a presque l'impression d'une surdité volontaire de la part des promoteurs du texte. C'est-à-dire, en fait, l'idée même qu'on puisse s'opposer, qu'on puisse opposer des arguments, etc., leur semble... choquante presque, et on a l'impression que dans quelques semaines, même si dans les mois qui viennent, quand ce texte sera promulgué, on a l'impression que sera opposé à l'euthanasie sera dans le même camp que les anti-avortements, sera le même camp que dans même les anti-droits de vote pour les femmes. Enfin, on a l'impression qu'il y a presque une volonté de constitutionnaliser ça le plus rapidement possible et de mettre une loi de liberté d'expression pour faire en sorte que plus personne puisse critiquer ça, plus personne puisse entraver.
C'est ça, exactement. En fait, il y a par cette loi, il y a la volonté, et là, c'est là où on voit la force de leur discours, et là, on comprend leur acharnement, hein, qu'on peut voir, et le mépris qu'ils ont aussi pour leurs adversaires, de casser le dogme, casser le principe du respect de la vie. Et donc ça, ils veulent le faire le plus fort possible. C'est pour ça qu'ils veulent pousser le plus loin possible leur avantage avec ce texte et qu'ils vont à l'extrême et à l'excès avec ce texte. Parce qu'ils veulent casser le principe du respect de la vie et affirmer de la façon la plus absolue possible la liberté. Mais c'est là où on voit que ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, leur idée de la liberté, elle est sans limite, elle est sans cadre. Puisque aujourd'hui, ils disent 2 jours pour mourir. Mais pourquoi pas 2 heures ? Je veux dire, si leur liberté est si infinie, pourquoi 2 jours ? Et c'est jamais assez.
Et c'est toujours, c'est toujours une liberté qui fait peser. C'est Marie-Lise Pellissier qui nous en parlait la semaine dernière, et pile une semaine d'ailleurs à cette antenne, mais qui nous expliquait, mais en fait, dans le fond, cette liberté absolue s'exerce par une contrainte sur les autres, par cette idée qu'il n'y ait pas de clause de conscience, et par l'interdiction de l'entrave pour tout ce qu'elle signifie.
Alors ça, c'est un paradoxe de la pensée, on va dire, socialiste, c'est que la liberté des uns doit s'accomplir au moyen de la société. Dans une approche libérale, on dirait, écoutez, c'est pas le rôle de la société que de gérer votre mort ou de vous tuer. Si vous voulez vous suicider, malheureusement, vous avez toujours le moyen de le faire, c'est pas nouveau, mais ça concerne pas la société. Au contraire, la société, elle est là pour protéger le bien commun de la vie et donc pour préserver et prévenir autant que possible le suicide. Ça, c'est la vision libérale. Cette vision socialiste, c'est de dire non, la société, elle est là pour tout vous donner. Donc, aussi bien des enfants en bonne santé, une éducation complète, elle doit s'occuper de tout, votre logement, vous savez, les règles écologiques, enfin tout. Et puis, y compris votre mort. Et ça se fait aux dépens effectivement des autres. Et ça nous oblige ensuite, ça oblige le reste de la société à devoir accepter. Oui, bien sûr. Alors le délit d'entrave, ça va encore plus loin. C'est l'idée que la société doit se conformer à ce nouveau dogme, à cette nouvelle pensée, comme c'était le cas pour l'avortement. C'est la même logique dans les deux. C'est l'affirmation d'une liberté contre la vie. Liberté de maîtriser la vie par la destruction.
Alors, il nous reste quelques 3-4 minutes. Grégor Pupin, question pour la suite, évidemment. Le texte doit repasser au Sénat, puis à nouveau à l'Assemblée nationale. Que peut faire le Sénat ? Qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce qui, selon vous, est réaliste sur le texte final, dans le fond ?
En fait, ce qui serait normalement le plus logique, c'est quoi ? C'est que ce texte soit rejeté. Alors, c'est pas forcément ce qu'on peut attendre. En France, on n'a toujours pas les soins palliatifs. Il est en fait complètement incohérent de faire passer ce texte sur l'euthanasie alors qu'on n'a même pas les soins palliatifs.
Oui.
Voilà, donc ça, c'est la chose qui est la plus élémentaire.
Pardon, je rappelle un tout petit élément à nos auditeurs pour plus de contexte, mais a été rejetée l'idée qu'on ne pouvait bénéficier de l'euthanasie que si on pouvait aussi bénéficier des soins palliatifs. Là, ce n'est pas ce qui va se passer. C'est qu'en fait, les soins palliatifs doivent être redéployés avec plus de moyens sur le territoire français, mais il y aura toujours des départements qui n'auront pas accès aux soins palliatifs, mais qui auront tout à fait accès à l'euthanasie.
En fait, on aura beaucoup plus facilement accès à l'euthanasie qu'aux soins palliatifs. Et ça, c'est inadmissible. Donc, je dirais, le point le plus élémentaire pour les députés et les parlementaires, c'est de reconnaître cela. C'est la priorité pour les soins palliatifs. Les soins palliatifs doivent être mis en œuvre, doivent être déployés sur le territoire. Et ce n'est pas le moment du tout, ni sur le fond, ni sur la forme, d'aller sur ce terrain de l'euthanasie tant qu'on n'a pas les soins palliatifs. Donc ça, ce discours-là, il doit pouvoir être entendu par tous les parlementaires. Parce que très clairement, les soins palliatifs, ça coûte cher, la société vieillit. Ce qui va se passer, c'est qu'on adopte les deux en même temps pour se donner bonne conscience, mais on ne donne pas les moyens budgétaires pour les soins palliatifs par derrière. Par contre, l'euthanasie, ça ne coûte rien. Donc il y a là une manœuvre, on va dire, politicienne pour se donner bonne conscience. Mais en pratique, si les deux textes sont adoptés comme ça, on aura l'euthanasie partout. Et les soins palliatifs uniquement dans certains lieux réservés pour les personnes qui ont soit des relations, soit de l'argent.
Oui, et puis d'une certaine façon, ce qu'on peut prédire aussi avec un peu de malheur, c'est que, comme vous l'avez dit, pour des raisons économiques, on se retrouvera à se dire, de toute façon, l'euthanasie existe déjà, on n'a plus de moyens, pas forcément besoin de développer des soins palliatifs sur tout le territoire.
Ben, c'est ça, les soins palliatifs, ça coûte cher, ça prend du personnel, ça fait prolonger pour certains une vie inutile. Et partout où l'euthanasie a été légalisée, eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas d'investissement dans les soins palliatifs. Donc très clairement, l'euthanasie est présentée comme étant une alternative aux soins palliatifs, et même plus encore, l'offre par défaut, parce que si vous avez partout accès à l'euthanasie, bon, ben c'est très simple, et que l'euthanasie, c'est immédiat. Donc une personne qui souffre, si on lui dit, écoutez, désolé, mais les soins palliatifs, il n'y en a pas dans la région, oui, et puis il faudra attendre, etc., ou alors si vous voulez, vous avez la solution immédiate, c'est que sous 48 heures, c'est l'euthanasie.
Oui.
Donc ça va être ça la réalité. La réalité, ça va être que énormément de personnes pourront, avec ce texte, pourront avoir recours à l'euthanasie et au suicide assisté. Il suffit de renoncer à son traitement lorsqu'on a une maladie grave et incurable, ce qui est le cas de très nombreuses personnes. Il suffit de renoncer en fait à se battre pour pouvoir entrer dans le cadre de cette loi. Et ça peut toucher énormément de personnes. Donc ce que l'on voit, c'est que ce texte est en train de mettre en place une procédure de gestion de la vieillesse et des personnes malades pour accélérer notre mort à moindre coût pour la société, tout ça au nom d'une fausse liberté.
Le Sénat, dans la dernière lecture qu'il avait faite du texte, avait fini par le rejeter avec une sorte d'alliance de la carpe et du lapin, des socialistes et puis des conservateurs, qui finalement avaient rejeté un texte vidé de sa substance. Est-ce que, selon vous, un pareil scénario pourrait se profiler à nouveau qu'est-ce qu'on peut attendre justement de cette relecture du Sénat qui est toujours jugé plus conservateur que l'Assemblée ?
Je pense que pas mal de sénateurs ont dû ouvrir les yeux, encore une fois, pendant les débats à l'Assemblée nationale, sur le radicalisme des promoteurs de l'euthanasie et vont pas forcément entrer dans le jeu.
Peut-être parce qu'il a mon numéro, donc peut-être que...
De faire un amendement, vous savez, qui viendrait limiter. Donc je pense qu'on peut espérer du Sénat une opposition très franche au texte, et majoritairement franche et opposée à ce texte. Voilà, donc ce sera ça l'enjeu. Sachant que ensuite se profile déjà la nécessité de réunir une commission mixte paritaire, parce que le texte de l'Assemblée ne sera pas celui voté par le Sénat. Et donc lorsque les deux textes des deux chambres diffèrent, il faut une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs qui négocient pour essayer de trouver un consensus. Probablement il n'y aura pas d'accord, encore une fois, dans cette commission mixte paritaire, et donc il y aura une nouvelle lecture, et ensuite un vote par l'Assemblée. Donc le chemin, on va dire, est encore long avant une éventuelle adoption de ce texte. Il y a les échéances électorales, il y a les municipales, il y a les présidentielles. Donc le chemin est encore long. Donc ce que je veux dire, c'est que ce texte n'est pas encore voté. Il n'est pas encore voté. On voit une érosion très claire des personnes qui le soutiennent, et donc on peut espérer qu'il soit rejeté.
Eh bien, espérer, c'est ce qu'on va continuer à faire, et ce sera aussi grâce à vous et à votre combat. Merci beaucoup, Grégoire Pupinck.